dans le tempo, vous êtes dans le podcast des passionnés de musique, épisode 42, c'est parti. Eh bien,
comment vas-tu, Daz?
Ça va super bien, déjà 42 épisodes de cette
déjà 42 épisodes. Ouais. 42 épisodes du meilleur podcast du monde, on peut le dire.
Ouais. Du meilleur podcast démonétisé du monde.
C'est vrai, démonétisé. On a chaque fois on a des problèmes, Daz.
Ah bah, parler musique sur YouTube, c'est...
Faut qu'on trouve une solution.
Bah, il faudrait que...
Qui doit t'en soudoyer, tu vois?
Il faudrait qu'on parle que de notre musique qu'on fait.
Ah, ça serait tout de suite moins intéressant.
On y pense. Foncièrement chiant, mais peut-être qu'éventuellement, on serait pas démonétisé.
Les gens détesteront très rapidement.
Oui, c'est vrai.
On fera avec. Et il paraît que tu testes des vélos maintenant, toi.
Oui, tout à fait. Je teste des vélos électriques, pour Numérama.
Tu bouffes à tous les râteliers.
Ah, bah, moi, c'est la huitième corde à mon arbalète, là, très bon retour, hein. Très bon test. Checkez ça sur YouTube également, hein. Décidément.
En plus, il fait sa pub. Non, mais rien.
Tout se passe. Bah, j'en profite.
Tu vas bien raison.
N'hésitez pas à venir aussi sur les streams, tout ça. Bon bref, on mettra dans la description tous les trucs que je fais.
Mais ici c'est DLT, Daz.
Ouais.
De quoi on parle aujourd'hui?
Eh bien, chez DLT, on aime parler des gens qui font vivre la musique, qui vivent de la musique, qui analysent la musique, qui déconstruisent la musique. On a fait tout ça.
J'aime ça, continue.
Mais on n'a jamais parlé des gens qui distribuent la musique.
C'est vrai.
Eh oui.
La distribution. Qu'est-ce que c'est que la distribution?
Moi-même, je ne sais pas. c'est ce que je compte apprendre.
Mais ça tombe bien parce qu'on a des gens autour de cette table qui vont nous aider à comprendre ce qu'est la distribution.
Ok, on les présente.
Oui, on va les présenter. Okay. Ce qu'on pourrait dire quand même, c'est que la distribution, en gros, dites-vous, si vous avez accès à de la musique, si vous pouvez l'écouter, que ce soit de manière physique, numérique, etc., c'est parce que il y a un distributeur derrière.
Exactement.
Et bah, c'est les gens qu'on reçoit aujourd'hui. On est avec Grégory Pesard. On est aussi avec François Reboux. Les gars, vous bossez pour Big Wax. Merci beaucoup d'être avec nous. D'ailleurs, c'est un groupe, en fait, Kairos Club, où il y a plein d'activités dedans, mais Big Wax, pour la distribution en particulier. Ça va, les gars?
Ça va.
Vous êtes un peu habitué à l'exercice ou pas trop
Pas trop, mais on se prend
un petit peu. Ça nous arrive de temps en temps.
Faites comme si c'était un call pour le taf. Et
exactement ça.
Non, mais quand on nous donne la parole, on la prend. Merci pour l'invitation.
Bah, c'est un grand plaisir de vous recevoir. On a aussi d'ailleurs Stéphane Rodriguez qui est avec nous, qui fait partie aussi de votre équipe. On va tourner un petit peu durant l'émission parce que chacun a un peu ses compétences.
Hein.
C'est la première fois qu'on reçoit trois personnes, effectivement.
Ouais. Alors, soit Chour, il nous assure un micro en plus.
On pourrait faire ça. Après, c'est les caméras aussi qui ont posé problème, tu vois, on a une petite... Sam va nous détester si on lui dit maintenant il faut trois personnes, tu vois.
Ouais, c'est vrai. Bon, ok, on sera à deux en tag team. Du coup, voilà, ça va faire comme au catch. De temps en temps, ils vont changer, ils vont se taper dans la main, ils vont changer de côté et tout, ça va être super.
Prépare tes meilleurs moves pour faire...
Parfait, un petit peu de côté.
Ce qu'on peut dire, c'est que chez Big Wax, donc vous avez plusieurs activités, on va rentrer dans le détail, mais en tout cas, globalement, vous travaillez avec des labels, des artistes. On pourrait citer parmi ceux-là Infiné, avec des artistes comme Rhône, Record Makers, Sébastien Tellier, Citizen, Vitalik, des beaux noms, en particulier dans la musique électronique. Je crois que ça vous tient à cœur, la scène électronique.
Ouais.
Et ce qu'on va faire...
Non, mais est-ce que c'est parce que c'est la musique électronique que vous aimez bien, ou est-ce que c'est parce que c'est principalement les musiciens qui font de l'électronique qui ont envie de...
En vrai, je suis sûr que c'est parce qu'ils kiffent.
Ouais, non, c'est une scène à laquelle on est attaché.
Ouais.
Parce que aussi, on est parfois derrière les platines et que, voilà, c'est le format idéal pour ça. Ouais. C'est historique parce que Big Wax, c'est donc la partie distribution de Kairos... C'est aussi issu d'un rachat d'un distributeur historique qui était plutôt dans les musiques électroniques. Donc voilà, tout ça avait du sens.
Okay.
Et voilà.
On vient tous plus ou moins de là, dans l'équipe.
Oui, mais même si...
Si demain, il y a, par exemple, je sais pas moi, Vianney, il veut faire des vinyles, il peut quand même passer par vous ou...
Pour les fabriquer, pas de problème.
Pour les fabriquer. Pour les distribuer, après...
C'est un peu moins l'ADN, c'est ça?
Non, mais après...
C'est pas très bien loti chez nous, c'est une question de réseau.
Oui, bien sûr.
Mais après, on distribue, en tant que distributeur, on distribue plein de types de musique. Hein.
Ouais.
On fait beaucoup de jazz, beaucoup de musique africaine, brésilienne, du Pérou, c'est hyper varié en réalité. Après, c'est vrai que...
De la pop aussi.
En France, il y a quand même une scène électronique qui est assez importante.
Bien sûr, c'est une fierté. À l'export, en tout cas, c'est le genre qui s'exporte le plus.
Cocorico.
Ouais, fait partie, ouais. Ouais, c'est clair. Puis c'est vrai que nous, on a bossé sur des projets. Enfin, surtout Greg, qui a bossé sur C2C, notamment au départ, tout ça. C2C, plutôt.
C2C, ouais.
D'ailleurs, j'en profite. Ouais. Si Vincile nous regarde.
un jour, on l'aura.
Si Vincile nous regarde, ou quelqu'un de son entourage, je lui ai écrit, viens dans l'émission. J'adorerais parler avec Vincile. Je pense que c'est quelqu'un de très doué et passionnant. Et bref, ça c'est sûr. On en rediscutera.
La bouteille est lancée.
Absolument, une bouteille à la mer, comme ça. Greg, toi tu es le fondateur de Big Wax, tu diriges aujourd'hui la société. François, toi tu es surtout dans la relation label, surtout la direction de la distribution aussi même, on pourrait dire, de manière générale.
Ouais.
On va essayer les gars de présenter à nos auditeurs, à nos spectateurs, cette activité essentielle dans le monde de la musique, qui est donc la distribution. À la fois les défis actuels, les transformations, parce qu'évidemment le numérique a complètement rebattu les cartes, mais le physique reste extrêmement important, vous vous faites presser même des vinyles, etc. Ça va être assez intéressant. Mais ce que je vous propose, c'est que dans une première partie, on discute un peu de manière générale. Qu'est-ce que c'est qu'un distributeur? Parce qu'on a plein de gens qui nous écoutent et qui ne savent absolument pas quel est le rôle d'un distributeur.
Exactement.
Et peut-être autour de cette table aussi.
Oui.
Et comment vous pourriez définir la distribution de manière générale? On rentrera dans les détails, hein, mais le principe général, qu'est-ce que c'est?
Vas-y François, je te teste là-dessus.
Tu me testes là-dessus. Eh ben, on va prendre les définitions du contrat. Non, mais c'est la commercialisation de supports phonographiques, quoi. C'est ça, on va dire la définition. Hein. Wikipédia, je pense, du...
Quand tu parles de support phonographique, c'est des enregistrements, en fait, c'est qu'on inscrit sur un support.
Sur un support, peu importe le support. Hein, c'est... Et même les supports à créer, à découvrir.
Ouais.
Les contrats incluent toujours cette petite notion, d'ailleurs, qui est assez marrante.
C'est-à-dire que entre le moment où la personne signe le contrat la vie passe et il peut apparaître un nouveau format sur lequel distribuer de la musique.
Ça a été le cas plusieurs fois.
Ouais.
Au final, bon, ça fait longtemps que c'est pas arrivé.
Oui, ça va,
mais
voilà, il y a pas eu de disruption.
Mais bon, ça a de la K-pop. Il y a des albums, ça s'appelle des kits albums, c'est des nouveaux formats.
Ouais.
Qui existent pas en France, en fait, à part dans ce genre-là.
D'accord. C'est des formats physiques, numériques, c'est quoi?
C'est des formats physiques avec une application où tu viens plugger ton espèce de carte, là. Et en fait, c'est
une carte SD, quoi.
Non, en fait, il y a un code qui est lu comment on appelle ça sur les téléphones. T'as le
RFID.
Ouais, mais tu sais, quand tu mets ton casque là pour que ça soit, c'est de la Bluetooth mais améliorée, quoi.
Ok,
d'accord.
Vous voyez, c'est
une connexion sans fil, quoi.
C'est pas NFT, mais c'est
NFC.
Voilà,
c'est du RFID. Ouais.
Ok.
Et ça, effectivement, bah, c'est mine de rien un nouveau format.
Intéressant.
Ah, d'accord.
Et puis après, bah, c'est la mise en relation, enfin, c'est être l'intermédiaire entre les producteurs et les revendeurs, les commerçants.
Ouais.
Je pense que c'est ça aussi quand même une grosse partie du métier, si on doit le résumer simplement.
Oui, parce que le support
simplement.
Seul ne suffit pas, c'est aussi, bah, les points de vente, en fait, ou comment le
produit. Bah ouais, c'est le réseau.
Ça, c'est votre métier aussi.
Ouais.
Ok.
Bah nous, on est en contact avec les producteurs, les labels, et on est aussi de l'autre côté en contact avec les disquaires.
Parce que en fait,
comme
vous êtes l'intermédiaire, qu'est-ce qui empêcherait un producteur de label qui a envie de faire des économies de se dire vas-y, on le fait tout seul?
Bah il y en a plein qui le font, hein.
Avec des CD R, tu vois.
Non, mais ils font la même chose que nous, mais sans intermédiaire, sauf qu'ils peuvent pas être disponibles de manière aussi large. C'est logique, quoi.
Et puis il y a une dimension logistique aussi qui est prépondérante dans notre métier. C'est que oui, à l'échelle d'un petit projet distribué en direct chez 2-3
disquaires,
etc.
Faire,
ok, ouais. Mais sur quand il faut assurer une visibilité nationale ou internationale, là évidemment notre valeur ajoutée elle est évidente.
C'est-à-dire que quand par exemple vous travaillez sur du physique, il faut gérer les stocks, l'acheminement, faire en sorte que ça soit disponible dans tel magasin, dans telle chaîne, Fnac, Leclerc, ça c'est votre métier aussi.
Ouais, et puis c'est le référencement aussi. C'est pour que la musique existe physiquement, elle existe aussi dans des bases de données, donc il y a un travail de fourmi et assez rigoureux sur le référencement. Voilà, il y a des enjeux marketing aussi parfois, donc c'est aussi le poids du distributeur vis-à-vis de l'enseigne ou d'un disquaire ou d'un réseau de pouvoir mettre en avant tel ou tel projet. Donc
on a bien
dans les distributeurs digitales, il y a évidemment ils ont un peu t'es obligé de passer par un distributeur en réalité.
Oui, pour parler avec les plateformes.
Voilà, mais on a même créé un nouveau nom qui est les agrégateurs pour ne pas dire que c'est distributeur parce que c'est pas le même métier.
Tu parles des TuneCore, des DistroKid, des choses comme
exactement.
Ça.
Exactement. Ouais.
On reviendra dans le détail pour ceux qui maîtrisent ça un peu moins. Donc, parce qu'il y a, on a bien compris, dans le cadre du physique, c'est un intermédiaire entre les musiciens, en fait, souvent représentés par leur label, hein, les producteurs, etc. On l'a bien compris. Vis-à-vis des gens ensuite qui vont proposer à la vente, en gros, les disquaires, les chaînes, etc. Mais dans le cadre du numérique, ça peut être aussi proposé presque directement, en fait, aux gens qui écoutent, aux auditeurs comme nous, en faisant intermédiaire pour les plateformes, en gros. C'est ça ou je dis une bêtise?
Oui, après en fait c'est ça un peu la différence entre l'agrégateur et le distributeur numérique finalement. C'est qu'il y en a un qui pitch, qui va essayer de convaincre des équipes éditoriales de pousser un titre ou un autre, alors que finalement les agrégateurs ne font pas forcément ce travail-là, ou en tout cas ne s'engagent pas à le faire et c'est pas contractualisé dans ce sens.
C'est-à-dire que vous, votre accompagnement, pour que ce soit clair, pour ceux qui ne connaissent pas, si demain vous voulez mettre votre musique sur Spotify ou Deezer par exemple, vous ne pouvez pas l'uploader directement via la plateforme. C'est pas sur Spotify qu'on peut uploader. On est obligé de passer par un agrégateur ou un distributeur.
C'est là où Spotify ont essayé de le faire. Ouais. Je pense que c'était leur but. Hein. Ça a été leur but pendant quelques temps. Je sais pas s'ils sont encore là-dedans, mais ça a été en bêta en tout cas aux États-Unis.
Ok.
Ah, on pouvait uploader un morceau sur
aux US. Ouais.
Ah ouais.
C'était autour de quelle année? C'était récent ou il y a longtemps qu'ils ont essayé de faire ça?
Je sais pas, 4-5 ans, non?
Ouais. Mais disons que après c'est la qualité de, je pense que travailler avec des millions de producteurs qui peuvent produire très simplement chez eux, se retrouver plugué en direct avec des millions de gens, c'est aussi la qualité de
du référencement
aussi. Parce que voilà, il y a des données, il y a des normes, il faut des codes ISRC, il faut tout un tas de choses qui me semblent quand même assez difficiles à gérer.
En tant que particulier.
Ils y sont revenus au final, ils ont arrêté quoi.
Ouais. Donc le distributeur, il est aussi là pour faire le filtre et amener le contenu de la meilleure des manières, quoi.
Ouais, et s'assurer qu'il est correctement enregistré. Et...
Alors sur la partie digitale, il y a une dimension technique. Qui est, voilà, le distributeur ou l'agrégateur va être garant de la livraison technique. Et puis après sur la partie physique, on est sur autre chose. On est aussi sur une dimension commerciale. Il n'y a pas sur les plateformes digitales, il n'y a pas d'échange, on peut pas s'acheter un espace ou de la visibilité. Ouais. Ça se passe autrement. Mm-hmm. Sur la distribution physique, la démarche, elle est un petit peu différente.
C'est-à-dire que
c'est une force de vente.
Si moi je me balade à la Fnac et que je vois en tête de gondole un album, c'est à cause du travail du distributeur.
Ouais.
Ok.
Tout à fait. Mais François peut parler notamment, si on parle de la Fnac, on peut parler d'autres choses, des disquaires, etc. Mais sur des albums du mois, par exemple, c'est sur de la PLV, ça, c'est un travail.
C'est quoi la PLV?
La publicité sur lieu de vente.
Ok.
L'in-store marketing.
L'in-store marketing.
C'est beaucoup plus classe, non?
mais ça, évidemment, c'est des négociations et c'est le travail du distributeur d'aller chercher ça, d'aller chercher la visibilité. Ouais.
Parce que moi, je pensais naïvement que c'était le travail du label, ça, tu vois, de faire en sorte que son artiste soit visible.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que
grosse erreur.
Il y a des distributeurs indépendants, comme c'est votre cas par exemple. Puis ensuite, il y a des distributeurs. En fait, les majors font ce travail de distribution aussi. Et là, les majors peuvent être à la fois producteur, distributeur, etc. Là, effectivement, ça peut être rassemblé.
Oui, mais en fait, ce qui est étrange, c'est que vous, en tant que distributeur, vous bossez aussi, par exemple, avec Sony.
Non, pas vraiment.
Mais non, par contre, c'est un écosystème, c'est-à-dire que l'in-store marketing, etc., découle aussi du travail du label, de la promo faite au sein du label, des événements, enfin il nous faut aussi de la matière.
C'est de la collaboration.
C'est-à-dire que le label, il a quand même une enveloppe, un budget, en disant voilà, pour la partie in-store marketing, je mets un budget sur la table et.
Tout à fait.
À vous.
C'est ça. Ouais. Okay. Okay. Ouais, complètement. Ou nous, on a des propositions de dispositifs. Donc voilà.
On pourrait faire ça, on pourrait faire ci, qu'est-ce que ça vous tente.
Pour éclaircir un peu, parce qu'on a vu qu'il y a presque plusieurs métiers en fait qui cohabitent vous dans vos activités. Si on prend votre exemple, vous n'êtes pas le seul distributeur. Hein. On pourrait citer en France par exemple, il y a Idol qui est un gros distributeur, Believe, si on parle vraiment des indés entre guillemets, après il y a les majors, Believe fait aussi d'autres choses, fait aussi labels, etc. Mais c'est un distributeur comme historiquement il me semble.
Au numérique, ouais.
Ouais. Si on prend votre exemple à vous, Big Wax, si vous deviez énumérer rapidement vos métiers, vos différentes activités, que ce soit physique, numérique, comment vous le pourriez le présenter aux gens qui nous écoutent? Compliqué.
Pourquoi
d'ailleurs tous ces métiers différents?
Non, mais nous, notre positionnement, il est, c'est sûr qu'on est un distributeur multicarte dans lequel on va avoir effectivement des réseaux numériques, physiques, etc. Dans le cas de Big Wax, on a plutôt consolidé les réseaux physiques. T'as cité Idol, Believe, etc. C'est plutôt des spécialistes de la distribution numérique. Nous, on est plutôt des spécialistes de la distribution physique. Okay. Donc, parfois, c'est stratégique de pouvoir, en tant que distributeur, de proposer l'ensemble des réseaux. Mais aujourd'hui, on a peu de poids sur l'offre digitale. par rapport à des Believe ou des Idol. Par contre, on a beaucoup plus sur la partie physique.
Ça veut dire que un label peut passer par Believe pour la partie numérique et venir vous voir vous uniquement. D'accord. Ouais, il n'y a pas d'exclusivité.
Non, il y en a pas. Et puis ça se fait souvent quand même en bonne intelligence, c'est-à-dire que chacun peut se renvoyer des projets physiques. Numérique.
Il y a des projets aussi qui parfois ont plus de succès en physique qu'en numérique. Et il y en a pas mal.
En fonction du style de musique, etc.
Ouais, de la fanbase, de comment l'artiste communique aussi dessus. Enfin, il y a plein de, il y a plein de cas. Hein. Et d'accord. Puis, distributeurs numériques en général font du physique, mais uniquement sur des projets, des gros projets. Ils vont pas forcément faire dans le détail comme nous on peut le faire. Finalement, nous, on a un peu aussi un rôle où on apporte pas mal de diversité dans les magasins, aussi de catalogue, parce que voilà, on bosserait des choses que aucune major ne bosserait. Enfin, c'est un peu ça aussi, cette notion d'indépendance, elle résonne aussi un peu dans le catalogue aussi, quoi.
Ouais. Oui, faut comprendre que dans l'industrie musicale, en gros, quand on parle d'indépendance, c'est quand on n'est pas lié à une major, pour faire simple.
Ouais.
Ouais, complètement.
On a compris que le rôle du distributeur, c'est de faire l'interface, entre guillemets, entre les producteurs, ceux qui font de la musique, et le fait que ça soit disponible auprès d'un public. Que ce soit de manière physique, numérique, etc. Vous êtes là pour faire ce lien. Mais qui sont vos clients? Qui vous paye? Avec qui vous discutez? Globalement, comment ça se passe? Qui vient vous voir pour dire, moi, je vais mettre ma musique disponible?
Donc, des producteurs, principalement. Mais après, c'est pas juste un lien de réseau, c'est aussi un lien artistique, puisque François peut en parler sur le catalogue. Forcément, le distributeur, il va avoir une couleur. Donc, il y a déjà en amont, évidemment, on est sollicité par des labels, c'est par des artistes.
Affinités, quand même.
Et donc, il y a un travail d'écoute, de réflexion sur la couleur de notre catalogue, sur le potentiel aussi commercial, parce que c'est la raison d'être aussi d'une structure.
Il faut vivre de votre activité.
Donc, déjà, la première étape, c'est les affinités artistiques.
Ça veut dire, excuse-moi, ça veut dire que vous pouvez refuser.
Bien sûr.
D'accord.
Ouais.
Ok.
C'est
de distribuer quelque chose.
C'est notre quotidien même de de refuser. Non, mais pas refuser par plaisir. C'est-à-dire que quand tu envoies un refus, il faut l'argumenter, il faut expliquer. François, enfin, tu prends l'exemple de Vianney.
Ouais.
Bon, typiquement,
on a rien contre Vianney, hein, je pense.
Non, bien sûr, mais nous non plus. Mais on est capable de dire, bon, ben voilà, là, on n'est pas armé sur ça. Nous, si on parle des grandes enseignes, notre visibilité, elle va être plutôt dans tel type de bac et un peu moins dans les bacs de variété française.
Ouais.
Donc ça, voilà. Donc c'est un projet qu'on va refuser parce que artistiquement, c'est pas forcément la couleur du catalogue et
d'accord.
puis pas forcément les armes pour ça. Et
oui, c'est vrai que la notion du genre musical finalement encore une importance, peut-être encore plus dans le physique, puisque on a besoin de proposer, enfin dans les disquaires, il y a quand même des disquaires qui sont spécialisés aussi dans certains genres, et ils ont besoin de trouver une offre assez conséquente pour travailler avec tel ou tel distributeur. Donc on se doit aussi, quand on s'engage dans un genre musical, de proposer pas mal de références dans ce genre-là pour pouvoir continuer à travailler avec certains magasins.
D'accord.
Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on apporte de la diversité, mais il y a une limite
quand même
à cette diversité. Ouais. Oui, parce que on peut pas non plus sortir 100 sorties par semaine.
Votre but à vous, c'est pas de couvrir tout ce qu'il est possible de couvrir, vraiment.
Vous
gardez une tonalité en fait, une couleur. Ok.
Ouais.
Quand vous nous dites que vos clients principaux, les gens qui font appel à vos services, c'est des labels, est-ce que ça veut dire que vous allez travailler sur une sortie spécifique, c'est-à-dire que le label va dire, bah moi j'ai tel artiste, il sortait l'album, on a envie de vous, enfin que vous travaillez sur cette sortie d'album, ou est-ce que le label dit pour tout notre catalogue, tous les artistes qu'on a, tous les albums qu'on a sortis, etc., on voudrait que vous puissiez distribuer tout ça?
En fait, oui, les contrats de distribution, ça se fait sur de manière générale, ça se fait sur l'ensemble du catalogue passé, présent et futur.
D'accord.
Après, il peut y avoir évidemment des exceptions où on va travailler sur des monoprojets parce qu'il y a des ambitions peut-être de licence derrière ou les développements. Il y a un contexte qui fait qu'on va signer un projet. Mm-hmm. Mais non, nous, l'ADN, c'est de bosser un label, son catalogue, l'accompagner dans tout ce qu'il signe. Et, mm-hmm. Et voilà. Et aussi, et parfois, il y a des labels qui ont une couleur. Et toutes les sorties, plus ou moins, cette couleur. Et il y a des labels qui sont beaucoup plus éclectiques. Et ça, c'est notre force et de pouvoir aussi s'adapter à ça et de continuer à défendre de la même manière n'importe quel projet.
Mmh. Est-ce que parfois, ça peut être un artiste directement qui fait appel à vos services sans avoir de label, quelqu'un d'autoproduit, par exemple?
Ça arrive. Hein.
Ça arrive. Ouais. Nous, ce qu'on essaye de comprendre derrière ça, c'est si il y a la maturité, en tout cas, de l'artiste de gérer d'autres problématiques que son univers artistique. Et ça, c'est la difficulté quand tu travailles avec un artiste en direct. C'est de devoir expliquer un nombre de choses du métier. Ouais. Quand tu travailles avec un label, il y a des spécialistes
aussi,
voilà, ouais. il y a des équipes souvent. Mmh. Et puis c'est eux aussi, c'est aussi un filtre vis-à-vis de leur artiste. Mm-hmm. Mais ça arrive.
Ouais, on se l'autorise en tout cas, mais surtout quand il y a un coup de cœur quand même.
Vous avez
musical.
Quelques exemples de gens, d'artistes en général, avec qui vous travaillez en direct?
En général, ça passe quand même par un management. Mm-hmm. C'est souvent des cas de ces cas-là. Okay. Donc l'artiste est dans la boucle, mais moi je vais être amené à travailler avec un manager. Mais c'est vrai que Yuxek, c'est l'exemple. Ouais, c'est vrai. Yuxek, c'était vraiment direct avec lui. Okay. C'était cool, hein, mais c'est vrai que c'est super dur. C'est des gens qui ont des quotidiens hyper chargés, donc, et on peut pas leur en vouloir, tu vois. Mais quand tu fais ce choix-là, quand les artistes qui font le choix de se séparer des labels, ils font. Je pense qu'ils se rendent compte assez vite que finalement c'est pas forcément le bon choix. Mmh. Parce que par exemple là on travaille aussi ensemble avec une autre artiste. Je vais pas citer forcément le nom, mais ils se rendent compte assez rapidement que en fait c'est un métier quoi.
Mais c'est pas aussi simple que ça en fait.
Le label c'est un métier, ça existe depuis très longtemps.
Ouais. Et il y a une raison.
Il y a beaucoup de gens qui ont voulu s'affranchir du label parce que il y avait cette notion d'argent aussi. Mmh. Et qu'avait dû, je pense que l'arrivée des plateformes de streaming aussi a beaucoup, beaucoup accentué ce phénomène.
Et puis la révolution Home Studio, où très facilement on peut produire quelque chose de pointu à la maison, quoi.
Mais c'est vrai qu'en fait, généralement, quand on parle de ça, c'est principalement pour la production de l'œuvre.
Ouais.
Oui. Disant oui, maintenant tout le monde peut le faire chez soi, etc. Ouais. Et c'est vrai qu'on passe complètement à côté de la partie.
Il faut le mettre à disposition du public.
Effectivement.
Bah oui, et puis après, le travail du label, c'est du travail artistique, quoi. C'est aussi dire à un artiste. Là, ce que t'as sorti,
c'est pas ouf.
C'est pas là où on pense qu'il faut que tu ailles. Il faut que tu revoies tes morceaux.
Et puis c'est lui mettre à disposition des moyens aussi de production pour l'enregistrement, etc.
Payer aussi des cachets pour qu'il y ait de l'intermittence.
Non, il y a aussi c'est moins le cas maintenant, mais il y a aussi des artistes qui ont eu des grosses déceptions dans des grosses maisons de disques et du coup qui se retrouvent à switcher, dire ok, maintenant je fais moi-même, je fais en indé, etc. Et après, dans ça, il va y avoir des artistes qui vont juste sortir leur musique et des artistes qui finalement se disent je vais sortir la mienne, mais en fait je vais sortir aussi la musique de un tel et se transforment aussi eux-mêmes en label, etc. Ouais. Donc voilà, il y a il y a plusieurs cas de figure, quoi.
Dans l'industrie musicale, on sait qu'en tant qu'artiste, il y a plusieurs contrats classiques qui sont proposés. Historiquement, il y a le contrat d'artiste qui est un peu le contrat, qu'on imagine, c'est-à-dire où il y a de la production derrière, on paye, etc. Il va récupérer moins de royalties, mais par contre, il y a un investissement, notamment financier, qui est proposé à l'artiste. Puis il y a le contrat de licence et le contrat de distribution. Distribution. Est-ce que ça vous concerne? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contrat de distribution? Est-ce que c'est un truc qu'on signe avec vous directement? C'est quoi là?
Oui, nous on propose uniquement, en tout cas nous, Bigwax, on propose uniquement des contrats de distribution. On pourrait proposer des contrats de licence.
Qu'est-ce que c'est des
contrats de licence? La différence entre les deux, c'est qu'en fait, dans le contrat de licence, tu assures la partie, on va dire, marketing, promotion de la sortie. C'est-à-dire que ça inclut aussi notamment la fabrication des disques. Mmh. Et ça inclut aussi tout ce qui est attaché de presse, campagne marketing, etc.
C'est
payé par le licencié. Et voilà, les contrats de distribution, eux, toutes les dépenses marketing sont à la charge du producteur.
D'accord.
Ou alors sont sous forme d'avance, mais recoupables ouais. derrière.
Donc ça veut dire qu'un artiste indépendant qui produit, qui est possesseur de ses masters, etc., c'est le producteur, ouais. il se dit, moi j'ai juste besoin d'aide marketing pareil, j'ai mes pages, Insta, etc., je déconne rien, mais globalement, je peux gérer tout ça. Par contre, effectivement, pour mettre à disposition ma musique, pour la distribuer, bah là je peux signer spécifiquement un contrat de distribution avec des gens comme Big Wax, et c'est eux qui géreront ça pour moi. C'est j'ai ouais. bien compris, c'est ça?
S'ils t'acceptent.
S'ils t'acceptent. On a compris que Grégory, il refusait beaucoup.
Non, mais non, moi je... C'était la partie de François de...
Ouais, ouais.
Voilà, de faire la signature et de... Voilà, d'étoffer le catalogue. Donc, non, moi, je...
tu refuses plus.
Alors, j'ai eu refusé.
moi, j'ai une question, c'est du coup, est-ce que cette notion de catalogue inclut une dimension temporelle?
Ouais.
Ok, parce que est-ce que...
C'est-à-dire une dimension...
En fait, la question, c'est genre... T'as l'artiste Salman qui est distribué par Big Wax.
Un jour, peut-être.
En 2023. Est-ce que si Big Wax décide en 2052, à la mort de Salman.
Oh putain.
Putain, j'ai pas mis vieux, mon
gars. Quoi, c'est pas mal, attends, si, c'est pas si.
De faire, ouais, c'est pas mal, c'est pas
ça
mal.
Va, ça va.
De faire, de republier, en fait, les greatest hits. Est-ce que vous pouvez le faire en tant que distributeur? Ouais. Est-ce que vous avez la main sur le truc ou est-ce qu'il faut quand même. Ah, vous devez quand même redealer avec les ayants droit de Salman, sa famille, par exemple.
Ouais, non, non.
Quel exemple bizarre,
Ça qu'a commencé.
Non, non, le contrat de distribution, il a une durée, voilà, limitée.
Il y a des standards ou?
Bah, nous, on est sur des contrats de 2 ans, par exemple, renouvelables.
Okay. D'accord.
Donc 2 ans, c'est vraiment le minimum parce que bah, on est sur quand même sur des projets en développement, donc. Mm-hmm. Donc il faut voilà, il faut un minimum de temps.
Et vous mettez d'accord aussi sur un volume en plus du temps, genre je sais pas moi.
Non, il y a pas d'obligation de résultat sur le volume. Genre ça justement c'est le travail du distributeur de sentir le potentiel et de savoir s'il s'engage, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des équipes, il y a des gens qui préparent des commandes, il y a des gens qui référencent, il y a des gens qui vont négocier des mises en avant, du marketing, etc. Quand t'engages des équipes, des label managers qui vont suivre le projet, etc., quand t'engages tous ces gens-là, évidemment tu le fais pas pour 20 copies, mais après nous on n'est pas obsédé par le chiffre. C'est encore une fois, c'est la musique d'abord, c'est le catalogue. Et puis après, effectivement, c'est limité dans le temps, mais on a assez peu, au final, on a assez peu de labels qui nous quittent. Et s'ils le font, c'est pour des vraies raisons, quoi. C'est pas bon, c'est 2 ans, on passe à autre chose. Il y a une relation qui se construit.
Oui, ça reste au long cours, en dépit de la limitation, en fait, la relation peut se poursuivre et être...
Ouais, complètement.
D'accord.
Mais t'as des reconductions tacites, en fait, ça, c'est courant.
Ouais, d'accord.
Ils peuvent être dénoncés.
S'ils disent rien,
exactement.
On part sur 2 ans.
Ouais, voilà.
On a des labels avec qui on travaille depuis une décennie. Hein. Mmh. Et des labels qui aussi ont grandi avec nous, parce que, voilà, nous aussi, on continue de grandir et on le fait avec eux et c'est très bien. Mais donc, non. En 2052, on n'aura aucune légitimité.
Ils pourront pas exploiter mon patrimoine, Daz, tu comprends?
Bah, sauf si on considère qu'il s'est reconduit tacitement.
C'est ça, attention, petite ligne sur le contrat.
Mais non, non.
Et dans cet intervalle de temps où vous avez la distribution officielle de l'artiste, est-ce que vous avez le droit d'altérer le matériel, c'est-à-dire il a sorti un album de 15 titres et vous décidez d'en faire un de 12? Non, c'est vraiment le produit qu'on vous donne.
Pas le droit de faire ça.
D'accord.
Non. D'ailleurs, il y a des critères donc de temps, 2 ans, 5 ans, ça se reconduit, ça dure. Voilà. Il y a des critères de territoire aussi. Est-ce qu'on a la distribution pour le monde? Est-ce qu'on a la distribution pour la France? Est-ce qu'on a la distribution pour l'Europe? Donc nous, en général, la config parfaite, c'est d'avoir le monde, parce qu'on a des réseaux au national et à l'international. Mais il y a des exceptions, évidemment. Il y a aussi la partie import, donc François peut développer aussi, mais on travaille aussi avec des équivalents de Big Wax à l'étranger, avec lesquels on a des accords pour le coup sur la France. Donc on va travailler avec un Big Wax anglais ou un Big Wax américain ou allemand qui lui-même a du catalogue, sur lequel il a envie d'une visibilité en France, et nous on est...
Il faut appeler à votre réseau, à votre expertise.
Donc là, dans ce cadre-là, d'ailleurs c'est pas un contrat de distribution avec le label, quoi que ça arrive, on a quand même quelques labels anglais où c'est le cas, mais ça va être un contrat,
avec un autre
plutôt un contrat cadre avec un distributeur, d'accord, sur lequel ben notre territoire, c'est juste la France.
Parce que de toute façon, j'imagine que gérer le physique sur un autre territoire que la France, compliqué, non, pour vous?
Ben, en étant installé en France, oui, mais vous pourriez décider de vous installer ailleurs, non, de créer des
exporter.
Ou... Ouais, il y en a, ça existe, hein. Il y a Pias qui est... C'est le cas, ils ont Pias France, Pias Belgique et Pias UK.
Okay.
Enfin, Pias Benelux, on va dire. Donc oui, ils ont des filiales. Y a Cargo aussi. Après, ils ont pas tous les mêmes catalogues. C'est vu que chaque territoire est hyper spécifique. Et puis qu'en plus, l'industrie du disque va de plus en plus vers là aussi, vers le caractère national et le marché national est beaucoup plus fort que ça ne l'a été.
Ok.
Les artistes internationaux, avant, c'était en France, c'était peut-être 80% du business, j'en sais rien, mais peut-être pas autant, mais en tout cas, aujourd'hui, t'as The Weeknd qui arrive à être dans le top 100, mais c'est peut-être le seul, quoi.
Ouais. Donc, tu veux dire que si on regarde les titres qui vendent le plus en France, il y a eu un classement Snap d'ailleurs récemment encore sur l'année 2022, et si on regarde les tops, c'est essentiellement des artistes francophones en fait qui marchent bien.
Ah bah ouais, c'est de tous les ans, ça va dans ce sens-là.
Ouais. Ah, c'est marrant, ouais. C'est une traîne qui s'inverse par rapport aux années 90 où c'était
complètement
bulldozer pop. Ouais.
Et c'est partout dans toute l'Europe, quoi.
Après, l'idée d'avoir des bureaux, des filiales, c'est pour signer de la distrib en local et développer justement des signatures locales. Nous, en l'occurrence, on est plutôt dans un postulat où c'est du catalogue français qu'on va exporter. Mm-hmm. Donc, en fait, on n'a pas besoin d'avoir un bureau à New York pour aller signer un label français qu'on a déjà chez nous. Mm-hmm. Et après, on a les partenaires, aux États-Unis.
Les sous-distributeurs.
Donc, je parlais de l'import, mais donc on est, eux aussi, ils importent des disques de France via nous. Mm-hmm. Donc, on est implanté, mine de rien, par de la sous-distribution en Corée, au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Donc,
c'est un vrai réseau où les gens n'ont pas d'intérêt, finalement, à essayer de grappiller du territoire par rapport à leurs partenaires, en fait.
Ouais, complètement.
Après, on travaille avec certains magasins en direct, parce qu'il y a des affinités de catalogue. Mm-hmm. Et puis il y a aussi des gros magasins qui vont sourcer directement chez le distributeur officiel, enfin
d'origine.
D'origine, exactement.
Et souvent
parce que le prix est le plus intéressant aussi.
Ouais. Et souvent des gros magasins, mais qui ont souvent des gros sites internet.
Ouais, exactement.
Donc voilà, avec une visibilité qui peut être énorme, et souvent ces magasins-là traitent effectivement en direct avec les distributeurs.
Donc on a bien compris, il peut y avoir aussi des labels étrangers qui font appel à vos services pour faire en sorte que leur musique soit distribuée en France. Il y a la question économique dans tout ça aussi. Est-ce que qui vous paye directement, c'est les labels justement qui vous disent pour vos services, on vous paye. Est-ce que ça va être des pourcentages, que c'est des fixes, comment ça marche au niveau fric, tout simplement, ce truc?
Ah, la question de l'argent.
C'est des commissions de distribution, quoi. Hein.
Ouais. Nous, on est rémunérés, c'est nos clients, c'est les disquaires, c'est les sous-distributeurs, c'est les enseignes. Donc, en fait, c'est visé contractuel.
Pas les labels, pas le producteur.
Non, le producteur, il nous remet du stock et on fixe justement un prix sur ce stock, en tout cas sur les copies. Et nous, on va venir prendre une commission sur la vente. Donc, en gros, on détermine un prix d'achat au label. Ok, je t'achète tant le disque. Nous, on va le revendre. Inclut notre commission. Mmh. Et voilà.
D'accord, donc il y a pas de deal.
Après, le distributeur, et c'est un peu l'enjeu d'aujourd'hui. On parle beaucoup de label services. Tu peux en tant que distributeur vendre des prestations qui sont complètement valorisantes et valorisées, et tu peux facturer du service. Et d'ailleurs, il y a des facturations annexes, notamment sur. Je sais pas, moi, des trucs même très simples. Tu sors un disque et puis finalement, au dernier moment, t'as un partenaire média qui te soutient et en fait, les disques sont déjà en stock et il faut en sticker 5000. Mm-hmm. Bon, bah ça, c'est une prestation, évidemment, que tu vas facturer au label qui n'a rien à voir avec le deal de départ de prendre une commission sur le disque. Mm-hmm. Ça, c'est un petit exemple, un petit détail.
Mais la promotion aussi, des fois.
Mais il peut y avoir une dimension de conseil.
Vous pouvez faire de la promotion aussi.
Mais il y a pas mal de distributeurs qui ont des pôles de promotion de pire, quoi, promotion auprès des médias.
D'accord.
Et c'est des services refacturés. Hein.
Mais ça, on l'a fait d'ailleurs à une époque, ce qu'on appelle c'est la promotion in-house. Ça peut être voilà, ça peut être aussi des prestations. On évoquera le D2C tout à l'heure, mais la nécessité d'avoir des pack shots et de mettre en
c'est
avant
quoi, des pack shots
parce qu'on fait des objets aussi. Maintenant, c'est ça.
Oui, qui est je sais pas si on l'a déjà précisé, mais vous faites presser du vinyle, etc.
Bah, on a un service de fabrication intégré à la distribution. Ça fait 10 ans qu'on est connecté avec une usine et en gros, on distribue quasiment, enfin, on fabrique quasiment la totalité de ce qu'on distribue. Je parle pour les labels signés en direct. Je parle pas pour l'import parce que
c'est vous qui, parce que là, moi, j'avais compris que c'était le producteur qui mettait à disposition sa marchandise.
C'est
le cas, hein.
Bah oui.
Et que vous lui en commandiez. Donc, la question que moi j'avais, c'était déjà, vous prenez un risque, en fait. Si par exemple vous dites,
si
j'en prends 10 000.
C'est des deals de dépôt-vente.
Ah,
consignation.
D'accord. Ouais. Ok, donc vous n'achetez que quand c'est vendu.
Exactement. Ah, ouais, exactement. Avec un système de relevé de vente mensuel. Et, okay, et on paye uniquement les labels sur ce qu'on a vendu.
Ouais, ça rassure. Ça,
ouais. C'est un modèle, le modèle du consignment, enfin du dépôt-vente. C'est un modèle qui s'est installé vraiment depuis quelques années. Ouais. Avant, c'était vraiment, voilà, les labels y venaient, achètent en direct, tu vends pas. C'était effectivement une prise de risque qui était différente aujourd'hui.
Avec droit de retour aussi, quoi, évidemment, mais
avec. Des retours possibles aux producteurs et bon ça a construit aussi parfois une fragilité parce que quand vous achetez et donc vous avez la possibilité de retourner et que vous dites au producteur bon finalement je t'en ai acheté tant mais il y a la moitié qui est revenue et du coup en fait c'est toi qui me dois de l'argent. Cette relation elle est
oui,
un
c'est
peu plus difficile.
Ouais,
c'est
bah
toujours
oui,
plus simple de payer le label que se faire payer par le label. mais c'est logique. Le label il est pas là pour faire des chèques, il est là justement pour récupérer de l'argent de sa.
Non mais du coup
production.
Je pouvais comprendre cette notion de prise de risque pouvait aussi m'éclairer sur le fait que vous êtes vachement impliqué dans le choix de l'artiste et ce que vous voulez comme couleur, etc. Parce que je me disais, si c'est vous qui les payez et qu'après ça vous reste sur les bras, je comprends qu'il y ait une sélection.
Mais après aussi, on donne la tendance. C'est-à-dire que la responsabilité du distributeur, c'est du coup de cerner le potentiel par rapport à son réseau, etc. Ouais. Et si, effectivement, même si on paye pas la fabrication, parfois c'est le cas, on fait des avances de fabrication, si tu as tendance à dire à ton label de surpresser, ça peut être un sujet. Donc c'est là l'expérience, le réseau, et les compétences et la valeur ajoutée du distributeur, c'est de taper juste, de dire ok, bah en fait voilà la bonne quantité c'est ça. Et en général voilà si tu fais bien ton travail,
écoute.
Oui.
Je pense qu'on a fait une bonne première approche un peu du métier de distributeur. On va essayer de faire une partie à présent un peu plus précise sur le numérique, sur le physique. Et enfin, on fera une dernière partie sur le D2C qui est le grand mouvement en ce moment qui est important dans la distribution. Juste pour terminer cette partie, parler un petit peu de votre catalogue et tout. Est-ce que, parce qu'on aime bien écouter des morceaux de musique dans cette émission, est-ce que vous avez quelques titres iconiques d'artistes importants dans votre catalogue historiquement, dans l'histoire de Big Wax, et dont on pourrait s'écouter rapidement quelques extraits?
Ils n'ont pas dit ça, rendez-vous, que c'était lié au catalogue.
Non, mais tu vois, des morceaux qui pour vous ont été importants, alors c'est des projets, ça va au-delà seulement du titre, mais qui pourraient illustrer ces étapes importantes pour
Big
Wax.
C'est le moment où on se fait démonétiser la vidéo.
Exactement.
On y tient, c'est une tradition.
Non, mais il y a plusieurs exemples.
Ouais. Enfin, moi, j'étais assez content. J'ai eu un gros crush sur Salt, le groupe anglais. Je sais pas si vous voyez.
Pas du tout. On peut s'écouter un petit extrait d'un truc qui est sorti.
S-A-U-L-T. On est distributeur France, mais pas vraiment parce que je leur achète les disques en ferme et j'ai pas le droit de les retourner.
Ok. D'accord.
Mais parce que je kiffe tellement que je me suis dit, vas-y, je vais me faire ce petit kiff. Parce que bon, c'est aussi une merde de se faire kiffer.
Ok, t'as un titre de Salt?
T'as YYY? Ouais.
Salt, YYYYY, il y en a 5!
Exactement.
Ouais. C'est parti. J'aime bien, ça commence bien.
Ils ont sorti là récemment 5 albums d'un coup.
Ok. J'avance un tout petit peu.
C'est génial pour un distributeur, ça.
C'est parfait.
Ouais, l'ambiance, c'est stylé.
C'est trop bien. Je vais rajouter ça tout de suite.
Ouais, mec.
Petit like.
Ça a été le gros truc au UK.
Ok.
Il y a 2 ans, ouais.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres morceaux, artistes qui ont été importants dans l'histoire de Big Wax, marquants?
Il y en a. Après, c'est aussi peut-être des labels.
Ou ça peut être des labels. On prend juste un exemple pour illustrer.
On peut prendre l'exemple de Recherche et Développement, par exemple, avec Jacques, Miel de Montagne.
Ça, c'est des gens avec qui vous travaillez.
Ouais.
Ok. Il y a un morceau de Jacques que vous aimez bien, ou Miel de Montagne?
Moi, j'aime bien Vous de Jacques.
Ah ouais, c'est clair. Tube.
Allez, c'est parti. Vous de Jacques.
Ah, c'est Jacques, c'est... Avec le...
Tout à fait.
C'est ça, c'est lui.
Je l'ai raid sur Twitch.
Ah,
ouais. Il est très chaud de Twitch.
Ouais, Jacques. Il est chaud. Hein.
Ouais. Cool aussi. On sent quand même qu'il y a une petite vibe globalement funky groove électronique, hein. C'est ce que vous aimez.
Qui est bien la disco quand même.
Ouais.
Ouais, carrément. Ouais.
Est-ce que, en truc plus ancien, il y a eu encore quelques étapes importantes, peut-être au début de Big Wax, qui ont été genre le premier truc que vous avez signé, vous avez dit putain là, on a assuré les gars.
Je dirais même au début de La Baleine, puisque c'est, voilà, je dirais peut-être Tricky, par exemple, qui a pu être quelque chose de.
Ok.
Vitalik aussi, quoi. Parce que Vitalik, au final, pour toi, pour des gens de l'équipe aussi, ça a été un peu un. J'ai l'impression, en tout cas, un disque important, des gens qui étaient contents de voir ça arriver chez nous.
Okay.
Et pour ma part, d'ailleurs, quelque chose que je connaissais assez mal et j'ai appris à vraiment apprécier ça, comment sa musique, quoi.
Ouais. Un morceau sur un album que vous avez distribué de Vitalik que vous aimez bien?
Bah là.
Haute définition, là.
Ouais.
Ou Rage Against the System.
The System, ouais.
Laquelle plutôt? Rage Against the System?
Ouais.
Allez. Ouais, ça envoie du lourd.
Ta-tum.
Disons qu'on avait au sein de l'équipe des histoires un peu croisées.
Ouais, c'est vrai.
Avec Citizen, le label. Donc voilà.
Ouais.
Allez, on s'écoute Rage Against the System, Vitalik, avec Illy Smile.
Exactement.
Un peu plus vénère, là.
Un peu plus club, ouais.
Bah ouais. Il a fait la première partie d'Indochine. Récemment.
Ça me donne envie de jouer à Wipeout sur PlayStation. Ouais, pourquoi.
J'avance un petit peu. Oh, c'est bon. Ok, c'est bon les gars, la démonétisation est assurée. On peut arrêter.
Yes,
c'est certain.
On va parler vraiment de la distribution numérique un peu plus en détail. Je crois, Greg, que tu vas laisser ta place à Stéphane qui va nous rejoindre, Stéphane Rodriguez.
Bonsoir.
Donc toi, tu es plutôt responsable du service Direct to Fan, le D2C, dont on reparlera tout à l'heure. Et aussi la distribution digitale, c'est une de tes cordes.
C'est dans
tes
cordes,
en tout cas, une de tes casquettes.
Ouais.
Absolument. On va discuter tout ça. Le numérique, on est d'accord que c'est aujourd'hui le secteur principal de manière générale dans la musique. J'ai pris d'ailleurs quelques chiffres, j'évoquais tout à l'heure le SNEP, on l'avait déjà fait dans l'épisode précédent, donc qui est le syndicat national de l'édition phonographique, qui récolte plein de données en gros sur les ventes de musique en France. Et ils ont sorti donc leur dernière étude qui est sur l'année 2022. Ce qui en ressort en gros, c'est que le streaming audio, vidéo, alors si tu prends que le streaming par abonnement, c'est 56% des revenus. La musique. Il faut rajouter à ça 9%, 8% du streaming qui est pas par abonnement, qui est gratuit et vidéo. En gros, c'est un peu plus de 70% du marché, de l'argent qui est généré dans le marché de la musique, qui provient du numérique.
Ouais.
Est-ce que...
C'est beaucoup.
C'est énorme, 70%. Sachant que, d'ailleurs, ça c'est un truc dont on pourra reparler un peu, entre 2021 et 2022, le numérique augmente, plus 12% en France. À l'inverse, le physique, moins 12%. Donc, le physique parfois se porte bien, on rentrera dans le détail après, il y a certains formats qui se portent mieux que d'autres, etc. Ça. Mais globalement, le numérique éclate tout et ça continue d'augmenter. Est-ce que en tant que distributeur, en plus historiquement quand même lié à la distribution physique, on arrive à s'adapter à cette situation? Est-ce que c'est devenu le cœur de votre activité, le numérique, malgré l'ADN initial de Big Wax?
Nous, on a fait du numérique pendant... pas mal de temps et ça a été l'activité principale avant qui est le rachat de La Baleine, qui était un distributeur physique qu'on a racheté il y a 4 ans.
D'accord.
Et on s'est transformé en Big Wax Distribution à ce moment-là. Mais avant, on faisait du digital.
Ah oui, donc je dis une bêtise quand je parle d'ADN, c'est que le digital, c'est là où on s'est en numérique.
Ouais. Ouais, on l'a fait pendant 4-5 ans, un peu plus, même plus que ça. Et donc, on a vécu un peu la transformation aussi de ce métier, de ce marché, quoi. Où effectivement, c'est un peu avant l'arrivée aussi des TuneCore, des DistroKid, etc. Donc il y avait vraiment besoin des distributeurs numériques pour être disponible sur ces nouvelles plateformes.
Ouais.
Et il y avait un peu un boom de ça. Mais Grégory aussi a été un des premiers en France à ouvrir des comptes avec des Bitport, des choses comme ça.
Okay.
Donc voilà. On s'est un petit peu désengagé de ça pour la simple et bonne raison, je pense qu'on s'amusait plus à fabriquer des vinyles et à les distribuer qu'à faire la distribution numérique, qui peut devenir un travail assez technique, parce que c'est très, voilà, c'est vraiment un métier de informatique, aussi de fichiers XML qu'il faut envoyer okay. à des voilà, c'est très technique.
Stéphane peut peut-être nous en parler.
Exactement.
C'est quoi concrètement ton quotidien quand il faut gérer la partie numérique de la distribution de Bigwax?
Bah, c'est vrai que, comme disait François, c'est plutôt aujourd'hui plutôt technique, on va dire. Ouais. C'est-à-dire que il y a un métier qu'on appelle de supply chain, c'est-à-dire que c'est vraiment comment on va référencer un titre sur les plateformes digitales.
D'accord.
Et c'est surtout le principal objectif, c'est pour que derrière il y ait une bonne rémunération en termes de royalties, que le titre soit bien identifié du point de vue du producteur, de l'artiste, qui va pas se mélanger dans la masse, et donc d'avoir cette réflexion-là de référencement. Comment on va travailler une sortie en digital, ça va être une stratégie de single, contrairement au physique où effectivement on va être sur des albums ou des EP, sur des maxi. Là, on va avoir des stratégies de single qui vont être couplées avec de la radio, par exemple, des choses comme ça. Et donc, quel choix on va faire de sortie pour mieux défendre l'album, pour mieux raconter l'histoire de l'album aussi, faire le choix de... Forcément, dans un album, il y a des titres qui sont plus forts que d'autres, qu'on appelle donc des singles. Est-ce qu'on va plutôt partir sur un titre fort dès le début pour accrocher le public? Est-ce qu'on va plutôt garder ce titre-là pour la sortie de l'album, pour justement...
Donc ça, c'est vous qui faites ça.
On va être là en conseil, en fait, avec les artistes.
Parce que moi, je pensais que c'était le label qui disait, ouais, bon, bah voilà, pour nous, celui-là, c'est le banger, celui-là...
forcément, le label a son mot à dire, et effectivement, le label, comme il est producteur, il est aussi à la genèse du projet en termes artistiques avec l'artiste. Donc, évidemment, il va nous recommander, mais bon, c'est aussi notre travail d'apporter ce conseil-là d'un point de vue... plateforme et commercialisation sur ce canal-là. Quoi.
On peut même demander des fois des edits de morceaux l'intro est trop longue.
Pour jouer vraiment au jeu des plateformes, les normes en vigueur, il faut que le truc arrive relativement vite.
Bien sûr.
Après, aujourd'hui, nous, on fait la distribution numérique à notre niveau. On connaît le niveau de distributeurs que vous avez cités, comme Believe ou Idol, qui vont... beaucoup plus loin dans le métier et on va dire que ça va aussi, je pense, beaucoup plus dans les stratégies de communication sur les réseaux sociaux et les interactions aussi que les artistes peuvent avoir via ces plateformes-là et les enjeux de monétisation aussi sur un peu tous les canaux, quoi.
Dans notre cas, c'est un peu aussi une question de choix parce que, comme disait Grégory tout à l'heure, on est plutôt spécialiste du physique. Et c'est vrai que dans un sens... Bon, il y a des distributeurs qui font très bien les deux, hein. Je dis pas le contraire, mais bon, je pense qu'il faut aussi se reconnaître là où on est le meilleur pour pouvoir développer à fond ce canal-là. Et en fait, le marché est construit, comme vous disiez tout à l'heure, un distributeur digital peut travailler avec un distributeur physique sur une même sortie, où chacun va justement apporter sa pierre à l'édifice et va apporter là où il a le plus de compétences, dans le but commun de développer le projet de l'artiste.
Ouais.
Donc je pense que c'est aussi de notre côté un choix de... Ben de justement d'avoir développé le physique et d'être vraiment expert là-dedans aujourd'hui et travailler en collaboration avec des distributeurs digitaux, par exemple.
Mais du coup, il peut y avoir des écarts entre la version physique et la version digitale. Putain, j'ai dit digital aussi.
Ouais. Depuis tout à l'heure, il dit digital.
Moi, je suis un
des cours. C'est un peu
terme, au final. Hein.
Mais du coup... Tu disais par exemple que vous pouviez demander des edits sur certains morceaux en disant celui-là il est trop long, machin, raccourci, rapproche le refrain, etc.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a des écarts entre la version numérique, par exemple si toi tu demandes un edit, et la version physique pour laquelle l'edit n'y est pas, ou alors au contraire il y a des bonus tracks sur la version physique, ça c'est les trucs qu'on est habitué à voir. Comment ça se deal ça? Parce que moi j'imagine qu'en tant que producteur de la musique, je suis content si mes 18 titres, ils arrivent de la même manière aux gens en digital et aux gens en physique.
Mais après, ça dépend si tu l'optimises. Il y en a plein qui acceptent pas. Hein. Ouais. Enfin, non, on est peu amené à le faire, ouais. Mais. Ouais. Mais c'est des demandes qui peuvent être importantes et mais c'est voilà, c'est lié aux algorithmes, on est obligé de s'adapter en fait.
Donc vous faites de la veille sur les algos aussi pour savoir un peu comment qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche
oui,
pas.
Oui, nous et alors pour être tout à fait précis, nous on n'est pas en direct avec les plateformes. Ouais. On travaille avec un distributeur numérique en Allemagne qui s'appelle Contor. Mmh. Okay. Parce que en fait en réalité dans la sélection, si vous voulez Idol ou Believe, ils vont être beaucoup plus restrictifs que nous.
D'accord.
Ils signent aujourd'hui très peu de nouveaux labels et très peu d'artistes en direct. Il y a une époque en fait où ils signaient énormément. Enfin, Idol, ça n'a jamais vraiment été le cas, mais Believe, ils ont signé à tour de bras au début. Il y avait vraiment cette logique de quantité. Mmh. Parce qu'en fait, voilà, c'était facile de livrer. Et puis, plus on avait, plus il y avait d'argent. Et ils sont vraiment revenus de ça.
Sur de la sélection.
Et finalement, bah voilà, les TuneCore, DistroKid ont pris ce marché-là. Donc, ouais, il y a une grosse sélection qui est faite. Donc nous, voilà, même nous-mêmes, ça nous coûterait beaucoup d'argent d'aller se connecter avec les plateformes et de se mettre à la page technique pour pouvoir, voilà, vraiment fournir un service de qualité. À ce niveau-là.
Donc vous passez par un autre fournisseur.
On passe par un autre distributeur qui eux voilà font aussi tout ce travail de veille et d'adaptation aussi d'adaptation aux nouvelles normes, aux nouvelles règles parce que ça change tout le temps en fait. Hein.
Ouais, parce que tu vois, Daz t'évoquait le fait que ça peut étonner de devoir adapter y compris les morceaux en eux-mêmes par rapport au support sur lequel ça va être diffusé. Est-ce que c'est sur une plateforme, est-ce que c'est en physique, etc. Mais en réalité c'est une nécessité même si tu veux bien faire les choses. Vous me dites si je me trompe. Si tu veux bien faire les choses, normalement tu sors du vinyle, tu fais un master spécifique pour le vinyle. Bien sûr. Tu peux pas utiliser tout le même master numérique parce que derrière avec la gravure, etc. Ça va pas sonner de la même manière. Si tu essaies de bien travailler, de toute façon, tu dois t'adapter au format, dans tous les cas.
Non, parce que moi, je sais que en tant que paysan à l'ancienne, c'est vrai que des fois, t'achetais par exemple, je sais pas moi, The Chronic de Dre en version cassette. Mm-hmm. T'avais un morceau que t'avais pas sur le CD.
Ouais.
Tu vois, t'avais des trucs comme ça, et du coup, le jeu, c'était justement d'avoir le maximum de morceaux. Où t'achetais la première version de Doggy Style, il y avait un morceau qui avait sauté entre temps parce que il y a un problème de sample et tout. Tu vois, donc ces trucs-là, c'est des choses que au niveau du physique, ça a toujours été le cas. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce que ça joue toujours? Est-ce que on privilégie le numérique? Est-ce que genre le bonus track, il est sur la version numérique de l'album au détriment de la version physique?
C'est un peu les deux, ouais.
Ouais.
C'est un peu les deux. Après, ça va être plutôt des jeux, on va dire, de business, entre guillemets. C'est-à-dire que on peut avoir une édition exclusive sur du digital ou du physique qui va se dealer en avance qui va apporter, c'est un bonus track, effectivement. Ouais. Ça existe toujours au final.
En physique, c'est un vrai bonus track, évidemment. Faut l'acheter quand même.
C'est ça, oui. Il y a une autre démarche, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une démarche de fan, sur du physique.
D'acheter le physique, quoi. Ouais. Mais du coup, la question que je me posais, c'est est-ce qu'on va peut-être arriver à un moment où même en numérique, il y aura une diff entre la version de l'album sur Deezer et celui sur Spotify ou Apple Music? Sous-entendu, si vous l'écoutez sur Spotify, vous avez un morceau en plus.
Des exclus, ça arrive en tout cas.
Alors les exclus,
temporaires en général.
Temporaires, et puis après, ça arrose sur toutes les plateformes, mais carrément des versions différentes.
C'est déjà arrivé, vous disiez
Spotify, ils ont les versions live.
Ils ont des versions live, mais c'est plus des versions. Après, un même album, en fait, c'est la concurrence déloyale d'avoir un album. D'accord. Avec des tracks et des edits différents en fait en fonction des plateformes, donc là c'est comme un accord.
Genre on fait un son tout pourri pour la version Deezer pour pousser les gens à aller sur Spotify.
Ouais, c'est comme si tu faisais un vinyle avec 10 tracks pour une Fnac et t'en fais 12, enfin album.
C'est vrai, ça s'est jamais fait.
Non, mais en fait sur la partie edit, en fait on peut aussi le rapprocher à comme la radio au final, c'est-à-dire que malheureusement du point de vue artistique, parce que la démarche de l'artiste, si c'est un morceau de 10 minutes, c'est parce que c'est voulu et qu'il y a une histoire. Mais un morceau de 10 minutes, ça passe pas en radio. Ça sera forcément que
sur certaines radios
ou sur certaines radios à certaines heures.
Sur Fifi encore, ouais, ça dépend à quelle heure effectivement.
Ouais, voilà. Donc oui, effectivement, tu dois avoir ces edits et du coup, c'est un peu la même logique sur les plateformes de streaming parce qu'il y a derrière les algorithmes, qu'il y a un volume monstrueux en fait sur le digital. numérique, pardon.
Non, accès digital. C'est le terme du marché. Vous inquiétez pas.
T'as un volume de sortie, c'est des milliers de tracks par jour qui sortent. Donc en fait, derrière, il faut être incisif sur un edit pour que ça puisse derrière catcher le public, quoi. Donc
on a évoqué tout à l'heure tout ce qui est métadonnées, etc., lorsqu'on upload sur les plateformes et compagnie, pour bien référencer. On avait reçu d'ailleurs dans cette émission de Thomas Bouabka et Manu Moussalam de chez Deezer, qui bossent sur les algorithmes de Deezer. On avait bien compris effectivement que c'était essentiel le traitement des données, des normes, etc. D'ailleurs, qui manquait encore peut-être d'un truc encore plus normé de façon à éclaircir tout ça. Est-ce que c'est aussi votre travail de bien nommer, de bien mettre les bonnes métadonnées, etc., d'organiser tout ça?
Ouais, bien sûr. Ouais. Okay. Bah, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle le référencement.
Oui, on l'évoquait.
Ça a un peu évolué justement, où en fait les plateformes vont essayer d'enrichir au maximum les titres, que ça soit au niveau des crédits qui peuvent aller même jusqu'à des instrumentalistes. D'avoir dans les crédits un saxophoniste par exemple qui est reconnu. En fait, ça reste une data qui va rentrer dans un algorithme.
On la voit pas beaucoup encore pour le moment. En tout cas, l'interface utilisateur.
Non, il faut chercher.
Là, il y a les crédits, parce qu'on avait dit la dernière fois avec Deezer, mais c'est encore.
Mais il y a pas chaque instrumentiste encore.
Non. En fait, mais ça dépend aussi des référencements que t'as sur les titres. Mais tu peux du coup pousser jusque là, et je pense que c'est ce travail-là que les plateformes tendent vers ce travail-là aussi pour enrichir l'algorithme.
Après, il y a le tracking aussi. Donc il y a des éditeurs. Il faut les noms complets des auteurs.
C'est-à-dire que vous, actuellement, quand vous référencez, en fait, vous rajoutez plein d'infos qui, de toute façon, pour l'instant, en tout cas, sont même pas exploitées par les plateformes.
Ben, certaines, en fait, chaque plateforme a aussi ses guidelines, donc, en fait, même en termes de titres, chacun a son guide, donc
après c'est Apple qui a toujours été, ça a été les premiers
qui sont sortis
iTunes Stores, il y en avait des guidelines. Apple, tout le monde a utilisé ces guidelines là parce que c'était les seuls, en fait, hein. C'était je pense que l'hégémonie était encore pire que celle qu'on a actuellement avec Spotify. C'était 80%
de marché avec iTunes.
Donc ils ont donné un petit peu
le standard.
Et après ça s'est construit un peu autour de ça. Notamment sur les musiques classiques, vous imaginez même pas la complexité du truc. C'est un CAP métadonnées musique classique.
Du coup, ça, on en parlait tout à l'heure, c'est au format XML que on renseigne ces trucs-là, ou
Ben maintenant, en fait, on a des logiciels. Ce que j'entendais tout à l'heure, vous en parliez de pouvoir uploader directement sur les plateformes. En fait, au tout début, justement, Apple, en fait, au tout début du numérique sur la partie streaming, on va dire, c'était un logiciel Apple dans lequel tu venais uploader tes titres, tu mettais tes métadonnées, c'était à la mano et c'était très archaïque. Depuis, en fait, il y a des interfaces et justement, les distributeurs numériques ont créé. On parlait tout à l'heure d'Idle, en fait, qui à la base s'est fondé un peu là-dessus, de créer un outil permettant de livrer les plateformes. Et où en fait on va insérer directement toutes nos données là-dedans, et c'est une interface, donc c'est plutôt ludique. Et en fait ça part dans chaque tuyau et ça vient derrière matcher en fonction des guidelines de chaque plateforme, ce qui rend le travail plus facile, notamment quand t'as un gros volume de sortie. Et donc non, on n'est pas sur le plot de fichiers. Heureusement, sinon ça serait vraiment trop long faire une sortie digitale alors que t'es censé justement gagner du temps.
Du coup, justement, en termes de volume de sortie, vous, c'est quoi le... Vous en faites
sur le numérique, vraiment.
Ouais, c'est un gros
travail.
On va pas le dire.
Non.
C'est confidentiel.
Vous pouvez pas. Okay.
Non, mais dans
non,
le sens
non, c'est qu'on en fait
c'est,
pas.
C'est pour rigoler, mais on fait quasiment.
Non, vraiment pas.
Quasiment
ouais, d'accord.
Plus.
Okay.
On va sortir peut-être deux singles par semaine aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est pas du tout le rythme que peut avoir un distributeur numérique aujourd'hui.
C'est pas cœur de business, quoi.
On connaît le métier, même si voilà, on n'est pas. On n'est pas au quotidien en train de faire la distribution numérique. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, on peut vous connecter avec des distributeurs numériques qui sont vraiment dans ce quotidien-là. Et c'est sûrement hyper intéressant parce que eux auront d'autres choses à dire et une vision des choses.
Mais on le fera à l'occasion. On recevra peut-être des gens d'Idol, par exemple.
C'est intéressant. Même nous, on apprécie beaucoup discuter avec eux aussi parce qu'on a des métiers. Finalement, des fois,
complémentaire,
carrément. Ouais.
sur l'aspect numérique, j'ai bien compris que vous faisiez une distinction entre le distributeur numérique et l'agrégateur. Moi, j'avoue, d'ailleurs, c'est pas une distinction que je faisais. Je voyais bien qu'il y avait des différences, mais je parle de distributeur numérique aussi pour parler d'TuneCore, DistroKid et compagnie. Est-ce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas très bien, vous pouvez nous raconter un peu en quoi consistent ces plateformes, quelles différences avec vous, et parce que c'est une sacrée révolution quand même, ces agrégateurs.
Déjà tu payes.
Ouais, déjà tu payes. Ouais.
Ah, okay.
Déjà tu payes pour distribuer. Mais chez les agrégateurs, c'est quand même la principale différence. Et il faut rappeler qu'avant, c'était tu payais 10 euros, je crois. C'était à l'époque de pré-TuneCore, comment ça s'appelait déjà ?
C'était Zimbalam.
Zimbalam.
Ouais.
Qui tu payais 10 balles, je crois, et t'étais dispo à vie sur les plateformes, quoi.
Ouais.
Et c'était il y a pas si longtemps. Ouais. C'était il y a 4-5 ans.
Ok.
Et après ils se sont dit ah mais attends, mais en fait les serveurs ça coûte cher et tout, le business model il est pas bien, quoi.
Oui, sachant que derrière t'as 100% tes royalties, donc du coup c'est un abonnement, quoi.
Ouais. Parce que ça veut dire que l'agrégateur c'est lui qui héberge la musique, parce que pour moi il l'a poussé sur la plateforme, mais après c'était chez Apple, chez Spotify.
Ouais.
Oui, mais bon, faut
ils ont besoin d'avoir le master quand même original que te upload en fait et qui garde, c'est ça?
Bien sûr, ouais, ouais.
Ça.
D'accord.
Puis du traitement de données aussi, voilà, de enfin de gestion, parce que c'est aussi du dépôt-vente d'une certaine manière.
Okay.
C'est de la consignation. Au final, tu prêtes tes morceaux à Spotify et ils te payent sur des streams. Donc,
ouais.
Donc au final, c'est le même modèle que nous, on a sur le physique. Donc il y a des flux de données assez importants.
Parce que si on revient un peu sur ces agrégateurs, pour bien comprendre, moi en tout cas, d'un regard extérieur, vous me direz si je suis dans le juste. La grande révolution, c'est jusque-là, les grands distributeurs, on avait quand même une image extrêmement professionnelle. Mmh. C'est dans un sérail, dans l'industrie musicale, etc. Et c'est pas moi, tranquillement dans ma chambre, qui peux faire appel au service de ces grands distributeurs.
Ouais.
Arrivent ces agrégateurs, et c'est le cas encore aujourd'hui, c'est tu te dis, je viens de sortir là un morceau, je peux le mettre sur SoundCloud, par exemple, c'est facile à uploader, etc. Mais si je veux le proposer sur toutes les plateformes, moi, tranquillement à la maison, en trois clics, je le propose partout, sur Spotify, sur Deezer, etc., grâce à ces agrégateurs.
C'est vrai que les agrégateurs font pas de travail de filtre, de sélection que vous faites en distributeur.
Après, la vraie différence, c'est le marketing.
C'est ça. Mais c'est sinon, ça. C'est open, quoi. C'est-à-dire que n'importe qui, demain, tu fais un morceau chez toi, tu veux le mettre sur Spotify, tu peux, quoi.
D'accord.
Mais ça a été justement, en fait, un peu une réponse à cette évolution de marché, notamment sur le côté home recording, en fait. C'est-à-dire que les gens ont commencé à petit à petit pouvoir s'équiper pour pouvoir enregistrer dans leur chambre, chez eux, à des coûts assez raisonnables, à proposer de la musique. Et c'est vrai que il a toujours existé des plateformes comme SoundCloud ou Bandcamp qui permettaient à ces artistes de pouvoir vivre sur le numérique et de partager leur musique. Et en fait, c'est notamment intéressant de voir qu'il y a des... TuneCore, par exemple, c'est Believe. Ouais. SpinUp, par exemple, c'est Universal.
Qui vient de fermer SpinUp, d'ailleurs.
Ouais. Et en fait, c'était un peu aussi c'était un peu une réponse à une demande de se dire, OK, on a un volume conséquent de nouveaux artistes qui émergent, qui peuvent potentiellement exploser sur des plateformes comme SoundCloud. Mmh. Et en fait, à repérer, c'est compliqué parce que du coup, ça demande une veille énorme parce que là, on a un volume qui est gigantesque. Et donc, comment arriver à mieux les repérer et tout simplement créer un système d'un agrégateur, donc qui a intégré donc à la société d'un distributeur numérique qui, via son algorithme à lui, va pouvoir spotter directement les tendances et voir qu'un titre sans qu'il soit de base en contact avec l'artiste parce qu'il s'est distribué tout seul. Donc ça a été vachement développé pour ça.
Ce qui est bizarre, c'est que du coup, en termes de strictement en termes de légalité, on sait que normalement, tu vois, tu sors un CD, si jamais dans ton morceau t'as samplé un truc, il faut le déclarer, il faut le clearer. Normalement, c'est la maison de disque qui s'occupe de ce truc-là, mais ça veut dire que moi, en tant que particulier, je sample un morceau de Isaac Hayes, j'en ai rien à foutre. Je fais mon morceau par-dessus, je le fous sur TuneCore, ça part sur Spotify, et il y a personne qui va venir me shooter mon... Un peu comme nous, on a sur YouTube.
si, ça peut, mais après, c'est une question de responsabilité. C'est-à-dire que, en général, c'est la responsabilité du producteur, en fait. Si tu fais un sample qui est pas tiré.
Ouais, mais si je suis mon propre producteur... Ouais.
Oui.
Ah, c'est-à-dire que je peux me faire allumer après?
Oui, toi. Pas un TuneCore, tu vois.
D'accord, avec genre mon compte PayPal, ils vont dire « Ah, au fait, vous nous devez 50 000 balles ?»
Puis de toute façon, tu sais, en général, la règle sur Internet, c'est un ayant droit va venir commencer à t'embêter quand tu fais de l'argent avec un truc. C'est-à-dire que si tu prends tout le volume des petits mecs dans leur chambre, mais ils ont 5 écoutes, globalement, alors après, tu peux faire un peu de robot, etc., qui va détecter des choses.
Oui, mais justement, ils ces robots-là, ces robots sont sur Twitch, ils sont sur YouTube.
Mais je pense qu'il y en a, je sais pas d'ailleurs, je serais pas étonné qu'il y en ait sur les plateformes de streaming, des robots qui essayent d'analyser, de repérer.
Franchement, c'est une bonne question.
Ouais.
Ouais, c'est une bonne question.
Je sais pas du tout s'ils ont ça.
Parce qu'en fait, oui. Bah, sur YouTube, par exemple, parce que quand on parle de robots, en fait, c'est des scans. Mais du coup, pour pouvoir scanner, il faut que t'aies le master avant, en fait. Il faut que t'aies une base de données, en fait. Donc, YouTube, typiquement, c'est les artistes et les producteurs qui vont livrer ces audios à la plateforme. Qui derrière, vont servir de base au scan. Donc, la machine de YouTube va scanner tout l'ensemble des vidéos. Et de savoir à tel moment...
Vous savez bien.
Ah oui,
ça vous le savez bien.
On est coutumiers, hein. C'est pareil sur Twitch, et où ils le font effectivement pas encore en live parce qu'ils n'arrivent pas, mais où ton replay se fait shooter instantanément si jamais on entend du Isaac Hayes en fond sonore pendant que tu discutes, quoi.
Donc, qui n'est pas nécessairement shooté d'ailleurs, parce qu'un producteur peut très bien.
C'est un deal après clipper.
Sur
le cas de YouTube, en fait, il peut juste t'autoriser à l'utiliser, mais il va monétiser à ta place.
Ouais.
Il n'est pas forcément dans la démarche de bloquer. C'est vrai que même en général, voilà, ça peut rapporter quand même pas mal d'argent de juste monétiser une vidéo tierce, parce qu'il y a beaucoup, ça peut être une vidéo de vacances, hein, tu mets ça sur YouTube.
Ce qui veut dire par là, c'est que quand vous regardez un DLT, en fait, vous payez les maisons de disques, les labels, etc., dont on a utilisé les musiques dans cette vidéo. Ça a été démonétisé et la monétisation, en fait, revient aux ayants droit. Effectivement, ça, à la limite, pourquoi pas, même si un truc un peu hybride où quand même les créateurs pourraient aussi toucher un peu en plus des artistes, c'est intéressant, ça a déjà été discuté. Par contre, quand ça bloque complètement, c'est relou.
Mais pour vraiment différencier l'agrégateur distributeur, il y a les deux choses principales, c'est l'humain, c'est que t'en as un où c'est des machines, et t'en as un où tu discutes avec un label manager, donc moi c'est un de mes métiers. Voilà, où en fait t'as discuté avec quelqu'un de la stratégie, comme l'a dit Stéphane.
Oui, c'est ça, c'est pas du tout.
C'est un interlocuteur en fait.
Bien sûr, ouais.
Et t'as une équipe de retail marketing, ça a d'autres noms, mais voilà, qui est des gens qui vont aller, comme je disais au début, l'entretien, d'aller discuter avec les plateformes pour aller,
essayer de faire la musique. Il n'y a pas d'accompagnement, en gros, c'est.
Exactement.
Voilà, service technique, c'est fait.
C'est un tuyau.
Il y a plein d'artistes qu'on choisit aussi, un peu dans le même esprit que, ok, je veux plus de label, c'est je veux plus de distributeur et je vais aller
faire moi-même.
Tout faire moi-même et prendre 100% des royautés.
Ok.
Et des gros artistes sont sur TuneCore. Il y en a quelques-uns parce qu'ils disent, vas-y, flemme de filer 10% ou 20% ou 30% à un distributeur. Moi, j'ai ma fanbase, j'ai mes auditeurs par mois. Je sais que je vais faire de l'argent sans rien faire, d'une certaine manière. Mais en fait, c'est un mauvais calcul à long terme, quoi. Parce que finalement.
Pour votre business, en tout cas, c'est sûr.
Oui, mais d'un point de vue relation avec les plateformes, en fait, tu parles plus aux gens, les gens t'oublient, en fait.
Ouais.
Donc, il y a de l'humain, quand même, encore, même chez les plateformes, et si on peut dire tout ce qu'on veut, surtout de Spotify, où apparemment, nous, on bosse pas avec eux, on bosse pas avec eux, en tout cas, en direct, mais apparemment, c'est très, très compliqué de leur parler, d'avoir des retours, etc. Il y a quand même des humains qui gèrent qui prennent des décisions quand même. L'algorithme en prend beaucoup, mais l'humain aussi, quoi.
Ok.
Alors attends, parce que t'évoquais les royalties. Parce que moi, j'étais resté sur le modèle du dépôt-vente. En fait, vous financez sur les ventes réelles qui sont faites.
Ouais.
Mais vous prenez aussi des royalties sur chaque album.
Bah, les royalties, en fait, c'est l'argent qui est récolté.
Juste ça.
C'est, en fait, ça peut avoir, je pense que c'est un problème de terme, mais en gros, dans tous les métiers de la distribution, c'est la commission de distribution, c'est on prend une marge sur ce qu'on perçoit des plateformes, en tout cas en numérique c'est ça, et des magasins pour le physique, quoi.
Okay.
Donc c'est ça.
Et les modèles, pour terminer sur les agrégateurs, le modèle économique des agrégateurs en général, c'est tu payes un abonnement ou pour une release spécifiquement, c'est une fois une certaine somme et c'est pas lié du tout. Après, tu prends le pourcentage de ta musique, non, tout le 100%, etc. Ouais. C'est ça globalement.
Et maintenant, tu payes tous les ans. Je crois que c'est ça.
C'est ça. Maintenant, du coup, c'est plus à vie. Effectivement, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit manque à gagner quand même.
C'était beau quand même.
Mais je pense que là, c'est à l'année, enfin, suivant les plateformes, ils ont chacun leur modèle. Mais oui, c'est un abonnement, tout simplement. Un abonnement. Donc, si tu arrêtes de payer, ta musique, elle est plus sur les plateformes.
Ah, ça veut dire qu'il l'a.
Bah, de toute façon, tu sais, quand on évoquait Spinup tout à l'heure, donc qui est un agrégateur qui avait été lancé par Universal et qui vient de fermer ses portes, malheureusement, les gens qui étaient passés par Spinup, leur musique, si tu dis pas de bêtises, elle est enlevée des plateformes.
Oh, bonne question. Je sais pas s'ils ont gardé un flux quand même.
ça paraît très logique au final, mais malheureusement pour les artistes.
Franchement, bonne question.
Et je crois, parce que on a Chili dans l'équipe de Monte Leçon qui était passé par Smino pour un morceau, il me semble qu'il a regardé et qu'effectivement il n'y avait plus le morceau, si je ne dis pas de bêtises. À vérifier ça, à vérifier.
Ça vénère.
Et ça nous rappelle aussi le côté. On l'oublie parce que il y a quand même des acteurs forts dans le numérique. Dans Spotify, un Deezer, il va pas disparaître du jour au lendemain. Même si on sait qu'au niveau économique, c'est pas incroyable non plus, hein. Mais, OK, il y a de l'argent qui circule, etc. Le modèle est pas remis en cause. Mais on voit quand même que ça peut être éphémère, parfois, le numérique, que le dématérialisé, ça peut disparaître du jour au lendemain.
Eh oui.
Ah bah oui hein.
Qui nous permet ça, de faire du coup vers la partie physique.
Et ben, c'est ce qu'on va faire.
C'est incroyable. Les transitions journalistiques, moi à chaque fois je suis soufflé. Vraiment.
Bon, vous pouvez le voir, il y a eu un petit changement.
Un petit switch.
C'est Grégory qui est revenu. Merci Stéphane. Stéphane y reviendra aussi, vous inquiétez pas. Parce qu'on va passer à la troisième partie. Quatre parties pour une fois dans
ouais,
ce podcast.
Non, c'est en trois, tu vois. Thèse, antithèse, synthèse. Bon bah tant pis.
Mais écoute, on s'adapte.
Ouais, mais
on
s'adapte. Ça me va.
C'est ce qu'il faut. Hein. Ouais. On va parler un peu de l'aspect physique, de la distribution physique. Bon, c'est un sujet qu'on a déjà un peu abordé dans la toute première partie de ce podcast, mais j'aimerais qu'on parle notamment de tout ce qui est un peu fabrication, etc., des prix du vinyle, des choses comme ça, parce que c'est des choses aussi dans lesquelles vous avez les mains, quoi. On a compris que, à l'inverse du numérique, le physique, c'est aussi une grande part de logistique, de stock, de relations humaines avec des magasins,
c'est
des choses comme ça.
J'ai kiffé ça, la logistique et les stocks, c'est ma vie, hein, je le dis.
En vrai, c'était ton métier.
En vrai, c'était mon métier, ouais. Donc je suis... j'entends supply chain, je... Wouh. Allons-y. Je suis tout oui.
On kiffe aussi.
Est-ce que... Pardon.
On kiffe aussi, on a appris à kiffer.
Ouais.
La logistique.
C'est des métiers, d'ailleurs, tu vois, quand on parle de stock, de logistique, etc., quand on pense à musique, on n'imagine pas forcément ce genre de truc, honnêtement. Bon, ça paraît un peu laborieux, tu sais, comme domaine. On peut quand même y trouver un plaisir, justement, dans cette activité.
Alors, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de fabrication ou on parle de logistique pure. De toute façon, dans les deux, il y a moyen de s'épanouir. Ouais. Sur la fabrication, par exemple, nous, notre positionnement, c'est vraiment... on a vraiment un service de fabrication donc au sein de la distribution qui est incarné par la société Squeezer donc qui est dans le groupe. Ouais. Mais bon, on a je sais pas une expérience avérée dans la fabrication et en fait, si on lit ça à la distribution, du coup on a un rôle un peu de chef de produit là-dessus, donc c'est des échanges avec l'artiste, avec les graphistes, avec le label.
Comment tu le veux ton vinyle quoi?
Ouais, donc alors il y a des gens qui ont pas d'idées, donc on est là pour ça. Il y a des gens qui ont plein d'idées, mais elles sont pas forcément économiquement viables. Mmh. Donc ça, c'est là où on vient ramener la dimension distributeur,
rentabilité.
Mmh. Donc ça, notamment, c'est aussi un travail pour François, notamment de la rentabilité des projets. Mmh. Et donc tu parlais des prix, ils sont envolés depuis.
Faisons étape par étape, juste sur la fabrication par exemple. Est-ce que c'est classique dans le monde de manière générale pour un distributeur de faire appel, enfin d'intégrer aussi le service? Alors vous n'avez pas votre propre usine, hein, vous faites appel à des gens pour ça, mais d'intégrer ça dans vos services, pourquoi?
Un contrat de distrib, du coup c'est un contrat plus ou
Alors c'est pas classique, non. Ouais. Les distributeurs sont plutôt voilà des gens qui réceptionnent des disques fabriqués par Mons et par Vaux. Mais c'est pas une exception non plus.
D'accord.
C'est un confort aussi parce que bon déjà t'as la maîtrise du planning, parce que la hantise du distributeur, c'est de référencer des disques, d'avoir une date de sortie et de pas avoir les stocks. Donc ça peut arriver. Okay. Et donc ça remet en question tout un tas de choses. Donc c'est un confort et puis voilà, c'est un gage de qualité en ce qui nous concerne, ce qu'on sait, on a pris l'exemple tout à l'heure. En off sur les qualités qui peuvent être variables sur le support vinyle. Ouais. C'est un vrai savoir-faire, c'est des process qui sont extrêmement techniques. Ouais. Sur le voilà, donc il y a des principes de graver sa musique sur un lacquer, la galvanoplastie, il y a voilà le pressage en lui-même, il y a beaucoup d'étapes très techniques.
Ça veut dire que moi en tant que client, quand j'achète chez vous un artiste que vous avez distribué, je m'attends en fait à, c'est un peu comme le tampon saut de qualité chez Nintendo quoi. C'est, je sais ce que j'achète. J'achète un truc où
Pas sur 100%. Enfin, pour les disques qu'on fabrique, pour lesquels on a la charge.
Vous faites un distinguo justement entre ceux que vous avez fabriqués vous-même versus ceux que vous distribuez uniquement.
On peut pas le faire. Là, on prenait l'exemple de Soul par exemple. C'est des disques qui nous sont livrés et qui sont de qualité, mais on n'apporte pas notre garantie là-dessus.
Ouais.
Sur les disques qu'on fabrique, on sait comment ils sont faits, on sait où ils sont faits. Donc ça, oui, on avait d'ailleurs réfléchi, notamment avec l'usine, à écrire en tout cas qu'est-ce que pourrait être, quelle serait la norme, en tout cas minimum, pour estimer que le disque il a une certaine qualité.
Ouais.
Bon, après il y a l'équipement, il y a tout un tas de choses. Mais effectivement, il y a des grosses différences entre les usines, mais qui sont... C'est pas pour dire eux ils sont bons ou ils sont mauvais, c'est que le matériel, la machinerie et le savoir-faire, il y a des usines qui pourraient avoir un très bon matériel, mais pas le savoir-faire pour le bien exploiter. Donc voilà.
Mais il doit y avoir en plus des clients qui sont capables de déceler ce genre de trucs.
Ouais, mais oui.
Le mec qui fait ça a été pressé en Allemagne.
Non mais à ce point.
Bah, sur le marché de la sneaker, il y a des mecs qui sont capables en sentant la chaussure de dire ça a été collé en Indonésie. Je veux dire, à partir du moment où tu tombes sur un truc de frics, tu vois, tu.
Même un nom, hein. Ça s'appelle les audiophiles ou les audiopathes.
Ouais. Voilà. Ça dépend de. Ok.
Non mais les idiophiles aussi parce que.
Non mais après il y a des pour ceux qui sont vraiment connaisseurs sur ce qu'on appelle le run out, en gros entre le dernier sillon et la rondelle, il y a un petit espace là où on grave des choses.
Okay.
Parfois on peut reconnaître ici où ça a été fait. Il y a cette discographie discothèque immense qui est Discogs.
Ouais.
Où il y a dans les fiches techniques très souvent l'endroit où ça a été fabriqué. Et souvent quand ça a été fabriqué dans une usine qui est plutôt certifié,
réputé.
Donc oui, c'est un sujet. On peut le voir d'ailleurs sur Discogs notamment, des commentaires qui vont vraiment parler de la qualité du pressage.
Mmh.
Au-delà de la musique, etc. Donc
ça se paye aussi. Enfin, il y a des gens qui valorisent aussi cette qualité-là.
J'imagine que ça donne une cote à certains vinyles versus d'autres parce qu'ils sont pas pressés.
Un certain niveau, oui.
Ouais.
À un certain niveau, oui. C'est rare quand même. Mais
quand vous vous êtes mis, je sais pas quand d'ailleurs, mais en quête de trouver la bonne usine, le bon collaborateur pour faire presser vos vinyles, comment ça s'est passé? Est-ce que il y a des acteurs reconnus en Europe, dans le monde, peut-être ailleurs? Est-ce qu'il vaut mieux produire en France? Est-ce qu'il y a des pays qui ont un savoir-faire spécifique? Est-ce qu'il y a des usines en France, par exemple?
Il y a des usines en France, ouais.
Okay.
Il y en a une historique qui s'appelle MPO,
ouais.
Mais il y a aussi des néopresseurs en France.
C'est quoi des néopresseurs?
C'est un peu comme les gens qui font de la bière aujourd'hui et qui ont des brasseries artisanales.
Ouais.
Dans l'industrie du vinyle, il y a ce phénomène-là parce que il y a eu une relance de production de machines. Donc il y a trois, quatre fabricants dans le monde, plutôt trois d'ailleurs. Et parce qu'il y a une forte demande.
Ouais.
Donc en France, il y a des micro-usines, il y a MPO qui est très gros, installé, qui a eu des bureaux en Angleterre, en Allemagne, etc. Mm-hmm. Et puis voilà, il y a je sais pas une 20-30 usines dans le monde. Ouais, même facile.
Pas
même
plus.
Peut-être
que ça maintenant.
Bah, si on compte tout, effectivement, les néopresseurs dont je viens de citer, il y en a peut-être plus.
Okay.
Mais après, vraiment des grosses références, il y en a très peu. Il y en a une au Japon, il y en a une en Allemagne, il y en a une en Angleterre, il y en a une ou deux aux États-Unis. Donc c'est voilà.
C'est vrai que les Allemands sont quand même, dans toute l'Europe, c'est au niveau de l'industrie, ils sont quand même assez chauds.
Est-ce que vous bossez avec les Allemands en l'occurrence?
Ouais.
Ouais.
Il y a plusieurs grosses usines en Allemagne, quoi.
Vive l'Allemagne.
Ouais.
L'Allemagne.
Non, mais après c'est pas forcément le cliché Deutsche Qualität, etc.
Ouais,
mais les process, non, mais parce que après, l'idée, c'est. Alors, pour savoir de quoi on parle, il faut aller dans les usines.
Mmh.
Donc, nous, on l'a fait. On est allé Vinyl Factory en Angleterre. On est allé chez monsieur Jack White à Détroit, qui a monté son usine Soundman, donc qui pourrait être considéré comme un néopresseur, parce que c'est une usine qui a vu le jour en 2017, qui est pas dimensionnée comme usine, comme Optimal en Allemagne. Faut aller dans les usines, faut avoir touché, écouté, palpé, ce que vous voulez, enfin différents disques de différentes usines. C'est ça qui fait que nous, notre choix, il s'est tourné vers l'Allemagne. Mais ça aurait pu être.
Vous pouvez dire d'ailleurs avec qui vous travaillez exactement?
On travaille avec Optimal Media.
Okay.
Voilà.
Qui est aujourd'hui considéré comme le gros, un des plus gros presseurs au monde, quoi.
Bah, disons que ça sort 150 000 disques par jour.
Voilà. Ah ouais.
Fabrique 150 000 disques par jour.
Pas mal.
Donc ouais, c'est.
Mais du coup, quand vous passez chez eux, ils s'occupent donc du pressage du vinyle en lui-même et aussi de la pochette, des artworks, etc.
Ouais, jouer.
Ouais. Exactement. Alors ça, c'est.
Je savais pas ça.
Ouais, mais ça c'est une très bonne question parce que il y a très peu d'usines
qui font tout.
Qui font tout.
Ouais.
Donc, qui font ce que j'expliquais tout à l'heure, la gravure. Mmh. Donc, il faut un studio de gravure avec des ingé-sons, etc. Il faut donc tout ce département où c'est très technique, très chimique, de galvanoplastie pour créer les fameuses matrices qui vont ensuite aller dans les machines. Et il faut toute la partie imprimerie pour faire les pochettes, pour façonner les pochettes. Mmh. Donc, le confort de travail avec une usine comme Optimal, c'est de pouvoir avoir... Tout. Il y a des sous-traitances parce que parfois il y a des matériaux spécifiques, il y a des finitions spécifiques.
Oui, genre des pochettes avec des trucs brillants, machin, qui sont.
Ouais, ça, personne s'en cache, mais globalement, il y a très peu de choses qui ne pourraient pas réussir à faire en interne.
Pour essayer de recontextualiser un peu par rapport au marché général, on l'avait évoqué pour le numérique tout à l'heure, je ressors quelques stats du SNEP.
Et sous le SNEP, hein.
Et sous le SNEP, toujours utile. En 2022, il y a en valeur, c'est-à-dire en argent récupéré, le vinyle c'est 90 000 quasiment, le CD c'est 100 000. Si tu prends à l'année précédente, le vinyle c'était 78 000, donc il y a eu une augmentation de 13% en gros entre 2021 et 2022, 13% de la valeur qui est produite par le vinyle, donc ça augmente. Le CD l'inverse, c'est -25%, ça baisse. Mm-hmm. Ça se rapproche de plus en plus, c'est des vinyles. Pour autant, le CD, c'est pas négligeable encore aujourd'hui. Pourquoi vous avez décidé de faire que du vinyle? Vous faites pas de CD?
Si, on fait des CD.
Ah, vous faites du CD aussi.
Non, mais après, sur la démarche autour du vinyle, aussi pour naviguer dans ce monde ultra dématérialisé, et tu citais les chiffres tout à l'heure, du 70% de part de marché, du stream, voilà. Nous, on est vraiment là, c'est... La démarche autour du vinyle, c'est déjà un terrain d'expression qui est hyper intéressant pour l'artiste. Développer, enfin, c'est vraiment une espèce de pendant de son univers. C'est très concret et on peut aller très loin. Donc ça, c'est intéressant. Nous, on se positionne vraiment comme là pour le coup, enfin, et d'autres hein, d'ailleurs sur qui sont attachés, d'autres distributeurs hein, sur le vinyle, sur l'histoire, sur je sais pas sur l'objet.
C'est l'objet, je pense que c'est l'objet le plus abouti,
qui représente pour un artiste. L'œuvre.
Ça nous arrive assez régulièrement.
C'est une vraie récompense d'ailleurs pour l'artiste, c'est une énorme récompense d'avoir son objet.
Ça nous arrive assez régulièrement finalement d'avoir des rendez-vous avec les artistes quand il s'agit de la fabrication du disque.
Ouais, parce que c'est personnel.
On va pas forcément le voir pour parler de la commercialisation du disque, mais par contre choisir. Les finitions, les formats.
Ça, ils aiment,
Bah, ils viennent, en fait.
C'est un prolongement artistique, d'une certaine manière.
Ouais, en fait, je pense même qu'au fur et à mesure que le numérique prend de la place, ça donne encore plus de valeur au pendant physique, en vrai. Je pense que le numérique va ne faire qu'augmenter, mais le vinyle aussi, parce que c'est ce qui te permet de t'approprier le...
Enfin, le physique, de manière générale, parce que le CD revient aussi.
Le CD revient? Physique.
Du coup, c'est ça, c'est que y a aussi maintenant, sur le CD, l'approche de l'objet, et donc, le CD cristal, comme on l'a connu. Bien. Là aujourd'hui, François parlait de K-pop tout à l'heure. Eux, c'est les champions là-dedans.
C'est encore autre chose.
Mais sur le CD, effectivement, il y a encore des choses à faire. Il y a encore un marché pour ça. Il y a eu des engorgements là sur le vinyle, les délais, etc. On a aussi des labels, des artistes qui sont revenus sur ce format parce que moins cher, plus rapide à fabriquer.
Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a une forme, je sais pas si on peut dire crise, mais en tout cas, la production de vinyle, c'est très compliqué ces derniers temps. Les délais sont rallongés, c'est très cher, c'est compliqué.
Ouais. Alors, ça a été sous pression pendant quasiment 3 années. ça a été des crises sur des crises, en fait. Et bon, la guerre, elle est sur, notamment sur l'industrie du disque, elle a un impact très fort sur le nickel, notamment. Il y a eu une grosse crise du nickel, et bon, c'est la matière qu'on utilise pour faire les matrices, une partie des matrices, les matières premières, ben l'énergie pour faire tourner les usines, donc du gaz, du pétrole, etc. Donc ça, on a un phénomène où ben pendant le Covid, confinement, on a une consommation et des habitudes d'achat qui ont explosé, donc
la
vraiment
du mal à suivre, du
voilà
coup.
Une demande très 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 forte avec une offre relativement limitée, puisque des usines n'avaient vraiment pas intérêt sur les 15 dernières années d'investir énormément dans leur capacité de production. Donc il y a cette demande qui était très forte, une offre limitée, le temps de se rééquiper, de redimensionner un peu l'usine, et puis sur ça
un conflit
ouais. D'un approvisionnement qui est difficile, mais par contre justement là depuis début d'année, je pense que c'est une industrie qui a su de manière générale qui a su s'adapter à la situation, et donc on est revenu. Ça, c'est la bonne nouvelle de début d'année. On est revenu sur une situation à peu près normale, à peu près d'avant crise, même à peu près d'avant Covid, je dirais.
D'accord.
Au niveau des délais, au niveau des prix, il y a une petite tendance à la baisse, mais on revient pas sur un niveau de prix d'il y a quelques années. Ouais. Mais il y a plutôt des signes intéressants sur l'industrie du
jeu. Ça explique juste, pardon, toutes ces crises successives dont tu as parlé. Ça explique le fait que les vinyles, quand on les regarde dans le commerce, on a l'impression que les prix ont explosé.
Exactement. Et donc ça c'est un vrai casse-tête côté distribution.
Et c'est toujours justifié, réellement? Parce que,
Non. Non, mais justement, à l'échelle d'un distributeur indépendant, on le voit bien, parce qu'on parle avec les magasins, avec les enseignes, et ces gens-là, ils achètent des grosses majors ou ils achètent à des indépendants, et la répercussion, elle est pas la même.
Mmh. Sur l'étiquette.
Sur les indés, les indés. Nous, on a, nous et d'autres, hein, les indépendants, pas du tout répercuté cette hausse. En fait, c'est un dialogue et c'est vraiment une communication avec l'artiste, avec le label, avec nous. On a chacun un petit peu rogné nos marges parce que notre raisonnement, c'est que le prix public, il doit rester accessible. Mais c'est vrai qu'il y a des catalogues et des centaines et centaines
major,
de classiques.
En tout cas, je pense que leur technique, ça a été en fait le prix de fabrication a augmenté d'environ entre 20 et 40%.
Ouais.
Au début 20, et puis à la fin, récemment 40%.
Et
ils ont réimpacté tout simplement en fait ce pourcentage-là
sur le prix de vente.
Prix de gros hors taxe au magasin, et les magasins ont aussi protégé leur marge.
Dessus, ouais.
En fait, vu que le système fonctionne vraiment par du pourcentage, du coup c'est exponentiel en fait. Donc
c'est
un peu le problème. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des vinyles hors de prix.
Parce que quand tu appliques des coefs,
quand tu appliques des coefs, voilà, c'est...
Parce qu'il y a un truc classique qui est pas récent en réalité, c'est on sait qu'il peut y avoir de la spéculation autour de vieux disques, etc. Et là, on commence à avoir des prix délirants, etc. Soit ça, c'est pas nouveau.
Oui, c'est pas nouveau.
Parfois, c'est emmerdant, mais c'est pas nouveau. Ce qui était embêtant, c'est que sur de la nouveauté, on avait l'impression que les chiffres commençaient à devenir abusés.
Ouais,
d'après ce que je sais.
Non, abusif.
Abusif.
Ouais. Non, mais en fait, je pense qu'il y a aussi une logique capitaliste dans le fait que, il y a moins de capacité de production. Donc, la logique d'une major, c'est qu'en fait, elle va potentiellement fabriquer moins que ce qu'elle pourrait. Donc,
elle se rattrape
financièrement. Ouais. C'est un calcul qui a duré finalement pas si longtemps que ça, puisque on s'est retrouvé, je prends des classiques, hein, je sais pas, du Patti Smith, du Nirvana, etc. C'est des albums qui pouvaient se retrouver à 50 euros.
Ouais.
Ça a duré quelques mois. On est revenu, alors que proportionnellement, ça a pas baissé. Si tu veux, entre le 30 euros d'un Nirvana à quasiment 50, c'est peut-être pas le bon exemple, mais il y en a plein quand même, des comme ça. Ce gap-là, il est énorme. Et c'est plus important que la hausse qu'il y a eu. Et là, ça a baissé
fort.
Un tout petit peu. Par contre, ils sont revenus sur un truc qui est plus abordable. Donc,
il est quand même au-dessus des 30 euros.
Il y a 7-8 ans, ces mêmes disques étaient à 10 euros dans les bacs de la Fnac, quoi.
Mais après, il y a un vrai sujet sur la valeur.
C'est quoi le prix moyen d'un vinyle?
C'est qu'il y a aussi un prix du marché qui a été fixé par les grosses maisons de disques. Mm-hmm. Est-ce qu'un disque, un album, un LP ou un double LP, est-ce que ça vaut 15 ou 20 euros? Honnêtement, je ne pense pas. Parce que quand tu vois ce que ça implique vraiment en termes de coût, c'est pas le prix d'un vinyle. C'est le prix qui a été fixé, mais c'est pas vraiment le prix d'un vinyle. Mmh. Je pense que le prix juste aujourd'hui d'un album, c'est plutôt entre 25 et 30. Mmh. On parle d'un vinyle avec un petit peu de finition, etc.
Oui, pas juste un truc...
Ça semble être le prix juste par rapport à tout ce que ça implique et à tous les intermédiaires qu'il faut rémunérer aussi.
Bien sûr.
Donc, mais 15 euros, ça paraît... je veux dire, c'est ça paraît difficilement, voilà.
Je précise juste, Daz, après je te laisse poser une question. Mm-hmm. Parce que tout à l'heure j'ai évoqué les chiffres du Snap. C'était pas très clair quand je parlais de 90 000, 100 000 à peu près, c'est en milliers. C'est-à-dire qu'en fait c'est 100 millions, 90 millions, etc. Ouais. Mais en tout cas, l'idée c'était d'exprimer le fait que le vinyle augmente encore ses ventes. Le CD en baisse un peu. Il reste important au-dessus du vinyle, mais quand même l'écart, mine de rien, se réduit.
Après, il y a un truc qui est important, je pense, de dire aussi, c'est que le vinyle, il vit beaucoup dans les disquaires indépendants sur des disquaires spécialisés en ligne qui sont pas du tout connectés avec les charts. Okay. Et en fait, il y a un marché, notamment Discogs, mais Bandcamp et des HHV, des JDE, etc. Je pense que les chiffres sont beaucoup plus gros que ça en réalité. Il y a des extrapolations qui sont faites par le Snap et par OCC, qui est un partenaire officiel. Ils extrapolent en fait les ventes en disquaires indépendants,
c'est pas des vrais chiffres.
Ouais. Okay. Et nous, en tant que distributeur, on les connaît évidemment, ces chiffres. Et en les disquaires indépendants chez nous, c'est notre deuxième plus gros réseau, et c'est quasiment 30% de notre chiffre d'affaires.
D'accord.
Et c'est des chiffres qui sont pas retranscrits ou très peu dans les charts et dans les chiffres du Snap.
Est-ce que à une époque où j'avais fait, tu avais une question peut-être, non ?
Non, moi j'observe justement. Enfin, moi encore une fois, étant l'auditeur lambda de cette émission, moi-même j'ai acheté une platine vinyle cette année. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire.
Bien sûr. Tu kiffes ?
Ouais, bah grave. Même si moi j'en suis là, alors évidemment moi je regarde les prix de vente des vinyles et j'ai envie de me buter parce que moi j'ai pillé la discothèque de mes parents. Donc je suis revenu avec des Purple Rain ou des trucs comme ça, avec des euros marché 15 francs, tu vois, et t'es là, tu fais
avec un,
tu vois, c'est, je vois les prix en fait qui moi me terrifient, mais je me dis bon, on est prêt aujourd'hui, après avoir sans cesse attendu que la musique soit gratuite parce qu'on la piratait, machin, etc. Je pense que les gens qui ont maintenant un petit pouvoir d'achat, ils ont envie de montrer qu'ils soutiennent un artiste. Et du coup, ils acceptent, tu vois, de...
Tu sais quoi? Ça, on en parlera parce que je pense que c'est un des éléments principaux du D2C.
D2C, ouais, bien sûr.
Let's go. Putain, et je suis en avance de phase.
On en parlera un tout petit peu après. Parce que sur le vinyle, parce que là, on est un peu, mine de rien, dans la thématique retour du vinyle, etc.
C'est génial.
Mais c'est intéressant. J'avais fait une vidéo sur le vinyle, mais il y a maintenant quelques années, il y a à peu près 2 ans. Et ce qui ressortait quand même de mes recherches, c'est que, bon alors, on l'évoquait en off, des gens achètent des vinyles sans avoir platine, mais mine de rien, les platines, en réalité, les ventes augmentent aussi, etc.
Mais les artworks par contre, sont beaux, hein, c'est joli. Hein,
ouais, oui, c'est vrai, ça peut être un objet avant tout esthétique. J'avais vraiment l'impression à l'époque, par contre, que beaucoup de ventes concernaient le bas catalogue. Et que c'était pas forcément le truc le plus rassurant sur l'avenir, parce que pour que ce soit un peu vivant quand même, il faut aussi qu'il y ait de la nouveauté, etc. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ou est-ce qu'il y a un petit changement?
Non, mais la nouveauté, il n'y a aucun souci là-dessus. Absolument tout sort en vinyle. Donc, mais après, c'est pareil, c'est comme dans le bouquin, quoi. C'est-à-dire que si tu achètes une platine et que tu te fais une collection, tu vas aussi venir acheter des classiques et c'est complètement normal. Donc, non, oui, mais le bac catalogue, parce que à l'échelle de l'histoire,
il y a un gros 50 ans
de gros passif, quoi.
Mais c'est de moins en moins le cas. Mais après, bon, dans le marché de l'audiophilie, notamment, c'est quasiment que du back catalogue. Hein.
Ouais. Enfin, on le rappelle, hein, back catalogue, en fait, c'est des morceaux qui sont sortis il y a des années, etc.
Voilà, des classiques, ou des enregistrements live d'artistes qui n'ont jamais été édités ou ce genre de choses. C'est des quantités astronomiques de pressage. Je sais pas, un Miles Davis, tu vois, Kind of Blue, il est repressé tous les ans, je sais pas, 100 000 exemplaires par un label et c'est vendu, tu vois. Ça reste un énorme marché, le bas catalogue sur le vinyle. Nous, on y a accès, parfois. C'est quand même un marché qui est très trusté par les majors, parce qu'évidemment, c'est eux qui ont le catalogue. En très, très, très grande majorité. Et après, par certains labels spécialisés dans la réédition, parce qu'en fait, on va plutôt parler de bac catalogue, on va plutôt parler de réédition, en fait.
Okay.
dans le vinyle. En tout cas, c'est comme ça qu'on le classe, quoi. Il y a vraiment des labels spécialisés dans la réédition. Et à la fois
ils rachètent les droits pour exploiter à nouveau.
Et à la fois aussi beaucoup de trucs en fait oubliés, quoi. Il y a parce que je pense que quand tu disais aussi que le numérique tout a été rendu disponible, en fait il y a aussi de la musique qui était un peu inconnue qui a été rendue disponible et que des gens ont voulu rééditer en vinyle pour un peu donner cet objet un peu ultime que les fans qui ont découvert ces musiques-là sur YouTube ou ailleurs, principalement sur YouTube. Je pense pas trop TikTok, mais ouais, en tout cas, il y a un gros marché de la réédition. Hein. Ouais. Et nous, c'est une bonne partie de notre catalogue, c'est de la réédition. Hein.
Mais ça veut dire que si vous là, vous avez passé un contrat de donc fabrication et distribution avec un artiste, et que enfin, ça veut dire que quelqu'un peut racheter les droits 10 ans plus tard. Donc vous avez plus le contrat qui court avec l'artiste en question. Disons que le contrat a été interrompu.
Nous, on n'a pas de droit master de toute façon, donc.
Donc ça veut dire que
nous on a une exploitation de distrib, encore une fois c'est et parfois oui on va se retrouver avec des labels producteurs en tout cas qui ont une licence aussi sur une durée X années et quand ça s'arrête pour lui ça s'arrête pour nous et ça s'arrête pour tout le monde.
Oui, mais ça veut dire que si un enfin parce que quand vous faites la fabrication vous vous occupez aussi de la DA en fait de donc il y a
faut vous accompagner en tout cas.
Ouais. Pas vraiment de la DA parce que on prend pas cette position là puisqu'encore une fois on parle avec un artiste et parfois les labels ils ont même très souvent ils ont des graphistes attitrés qui
accompagnent. Vous en avez pas de votre côté
nous enfin on a des ressources graphiques design etc mais pour notre popote interne mais non en général encore une fois les labels on a des labels d'ailleurs qui ont des graphistes qui vont publier des livres sur leur travail où on va travailler avec des studios comme H5 qui réalisent pas mal de pochettes d'albums consorts. Donc on vient pas vraiment sur ce terrain-là. Nous, on va plutôt sur les finitions, sur la complexité du produit. Et ça, c'est vraiment les sorties déclinées, un volume, deux volumes, tu mets dans une box, c'est limité, etc. On va cadrer ça. On va aussi essayer de ramener une cohérence sur les envies. Encore une fois, il y a un décalage parfois entre ce que l'artiste ou le graphiste, le designer s'imagine et la réalité économique. Donc, nous, on n'est pas là pour casser des dynamiques mais on est là pour rationaliser ça.
Mais c'est-à-dire que sur le métier de la réédition, il faut quand même que donc la réédition de l'album respecte la pochette, par exemple, de l'original, tu vois. Genre j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est genre Freddie Gibbs quand il a fait son truc avec Madlib. Alors il en a fait 10 000 avec Madlib, mais le premier Tug-in, c'était une pochette gold avec le titre du morceau qui était pressé dans la pochette, ce qui fait que sur les plateformes tu vois un carré jaune parce que ça ne se voit pas. Et je me dis, ce morceau-là, s'il est réédité, est-ce que il y a une obligation de le faire de la même manière, c'est-à-dire en gold brillant machin avec un certain grammage, ou est-ce que les mecs ils peuvent prendre une photo de machin et puis juste faire une pochette
ça s'appelle des bootlegs, hein.
Non, mais il y a une obligation oui et non. Je pense que ça dépend aussi du contrat qui est passé pour pouvoir exploiter ça. On a parlé aussi en off de VGM par exemple, donc
De musique de jeux vidéo.
Donc sur des licences, si tu vas taper du Street Fighter, du Sonic, etc. Sega, il va pas te laisser faire n'importe quoi. Ouais. Et c'est pareil dans.
Ils sont très protecteurs en général.
Voilà. Après,
ils font des jeux. Bon, bref.
Mais si tu prends un label comme Sam Records, par exemple, ces pochettes, donc plutôt jazz, c'est vraiment ce qu'on appelle du facsimilé. C'est une copie identique à ce qui sortait dans les années 50, 60. Okay. Et après, il y a des libertés. Nous, on fait des rééditions, par exemple. Je sais pas, là, on va faire un titre Demon, par exemple. You Are My Hype. Peut-être vous souvenez de ce clip avec les langues. Mmh. Bon, voilà, la pochette. L'intention, c'est que ce soit la même qu'il y a 20 ans.
Ouais. En vrai.
Mais en vrai, ça pourrait être autre chose. Mais bon, c'est pas, ça peut. Okay. Non, mais je veux dire, il y a d'autres idées. Parce que ça peut avoir un sens que ce soit différent, ou ça peut avoir un sens que ce soit exactement la même pochette.
Ouais, bien sûr.
Après, mais il faut que ça reste dans le contexte.
Ouais, c'est l'intention artistique, hein, au final, quoi.
Ouais, mais du coup, ça vous engage quand même en tant que, enfin, la responsabilité de faire un truc qui respecte l'intention artistique.
Après, c'est pas nous. Encore une fois, les rééditions, c'est les labels.
Oui, c'est les labels qui décident.
Nous, on n'a pas notre mot à dire. On va peut-être leur dire, ok, en fait, cette pochette, elle est chum. Mm. Je pense que on vendra pas bien ce disque à cause de la pochette, parce que ça va pas rappeler le disque original ou les gens vont pas faire le lien. Ça, on a le droit de le dire.
Ok. Ouais.
Mais bon,
mais c'est pas notre label. Qui... Ouais. Okay.
Et d'ailleurs, c'est délicat. Hein, on s'autorise à le dire, mais quand c'est absolument nécessaire, quand c'est beaucoup de pincettes et quand c'est absolument nécessaire.
Mais ça vous est arrivé qu'il y ait vraiment des trucs atroces, des artworks que. Oui. Éclaté ou vous dites.
Alors, je vais parler.
citons d'artistes. Mais...
Non, mais ouais, ça arrive.
Ce que je vous propose, les gars, c'est. Là, on a parlé beaucoup de fabrication, etc. On va terminer cette partie sur le physique en revenant un peu à votre cœur métier qui est quand même la distribution. Avant de passer à la toute dernière partie qui sera un peu plus rapide de toute façon sur le D2C. Donc, c'est fabriqué, etc. Vous avez des stocks, machin, etc. Qui vont être, là encore une fois, vos clients, disquaires, chaînes, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que c'est la même façon de bosser avec des Leclerc, des Fnac, etc., qu'avec les disquaires indés? Parlez-nous un peu de ça.
Non. Bah, oui, non, c'est pas la même. Ils ont chacun leur spécificité. Après, les principaux réseaux de distribution, c'est donc la Fnac en France, qui est une exception quasiment mondiale. Hein. J'ai une chain store qui a une chain store, en fait on appelle ça comme ça pour généraliser, mais c'est une chaîne quoi de magasins.
C'est 46% de part de marché.
Ouais,
quoi.
C'est
énorme. Dans la musique
en France.
Ouais, en France.
Ouais. Ouais.
Non mais dans la
sur le physique,
sur le physique quoi.
Ouais.
Sur le physique quoi. Ouais. C'est vraiment une position hégémonique.
C'est pas du monopole mais presque quand même.
Ouais. Mais c'est aussi une chaîne qui propose une diversité de catalogue qui est énorme. Et on peut mine de rien les saluer un peu aussi pour ça parce que finalement tu peux vraiment trouver énormément de choses. À la Fnac ils ont gardé ce truc là. C'est pas que des produits de major, quoi.
Non, mais parce qu'il y a aussi les gens qui incarnent, si vous voulez, le département musique à la Fnac. C'est des gens qui viennent de la musique, qui sont du milieu. Et justement, pour eux, c'est pas forcément une victoire de peser 46%. Ils aimeraient qu'il y ait justement qu'il n'y ait pas ce monopole. Donc, ils sont très. Ils ont beaucoup de recul par rapport à ce chiffre-là. Donc ils sont très contents, c'est performant, mais en même temps, pour eux, c'est pas forcément un bon signe.
Ils veulent pas buter le milieu, en fait.
Non.
Et après, en international, enfin en Europe, en tout cas, en Angleterre, en Allemagne, c'est Amazon qui a un peu ce poids-là. En Allemagne, c'est quasiment 30%. Mais en France, c'est peut-être 6-8% Amazon.
Est-ce qu'il vaut mieux la Fnac ou Amazon? Bon.
En vrai, c'est
vite répondu, hein.
Ça, c'est lié au livreur. Si tu veux que ton vinyle soit plié dans ta boîte aux lettres, tu peux vendre chez Amazon, tu vois.
Là, si on parle de Fnac.com versus Amazon, mais si on parle de la Fnac et des magasins, tu vas quand même.
Tu vas acheter l'objet.
Tu vas.
Il y a la démarche.
Chez un disquaire. Après, il y a des Fnac.
Gros disquaire.
Non, mais il y a des Fnac qui ont leur spécialité, et qui, il y a des Fnac qui sont moins positionné sur l'audio que d'autres. Oui. À Paris, on a les Halles, c'est un des plus gros disquaires de France au final. Ouais. Donc et avec des gens dans les rayons qui sont pointus.
Alors qu'à Bercy Village, tu vois, tu vas acheter un des jeux. Tu vois. Ouais.
Non mais voilà,
mais sa Fnac.
Alors parler à la Fnac ou aux espaces culturels ou à Cultura, ça peut être sensiblement la même chose.
On va pas rentrer dans le détail des deals, tout ça, mais.
Non, mais parler à des disquaires, c'est différent. Ouais. Et puis parler à des disquaires, ça veut dire segmenter. Alors que quand tu sors, nous, on parlait de sortir 2 singles par semaine en numérique, mais on parle de sortir 35 sorties physiques par semaine en physique.
Ah oui, là, vous en êtes à ça. Ok.
Ouais. Donc, en fait,
faut. Pas 35 maintenant, on a réduit, mais
Je veux dire,
c'est beaucoup.
Ça a pu être même plus, mais Et puis, c'est pas une question de quantité, parce qu'il faut avoir les ressources et il faut les défendre, les sorties. Mmh. Donc, 35, c'est vrai que c'est aujourd'hui plutôt un maximum.
Ouais.
Mais on en a quand même quelques-unes par semaine. Et là, tu dois segmenter un peu plus parce que les disquaires, c'est pas des chain stores. Donc ils ont leur spécialité et ça, il faut savoir leur parler.
Et puis la grosse différence, c'est que les disquaires indépendants, c'est leur trésorerie, c'est leur propre boîte.
Ouais.
Donc le choix qu'ils font quand
ils
tu achètes un disque, voilà, ouais. C'est pas le même quoi. La Fnac, déjà la Fnac, nous on est en dépôt vente avec la Fnac.
Ah oui.
Donc eux-mêmes nous payent uniquement sur ce qu'ils vendent. Et Cultura l'est avec certains distributeurs. Donc c'est pas du tout le même deal commercial quoi.
C'est pas la même pression ouais.
Avec les indés, avec les disquaires, est-ce que il y a un moment où il faut faire son travail de commercial, c'est-à-dire tu prends ta voiture et puis tu vas à Rennes, tu vas à Lille,
écoute
tu vas
moi ça.
Oui, écoute petite moi ville ça. Aussi etc.
Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ah mortel.
Ça, c'est cool fait ça.
On le fait manière plus ponctuelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas un plan de tournée avec des gens qui sillonnent la France etc. Mais on le fait encore, ouais. On a encore des gens qui vont se déplacer en magasin.
Et avec une platine portable ou on prend des disques?
Mais avec, avec un book, avec un discours, avec des codes barres, beaucoup de codes barres dans notre métier. Énormément de codes barres. On pourrait pas faire codes barres. Codes barres qui sont liés à des codes prix, qui sont liés à tout un tas de choses. Mais oui, on le fait encore. Rennes, c'est un bon exemple. C'est encore, surtout, enfin, nous.
La Bretagne.
C'est un territoire qui est assez fort en physique toujours, en tout cas en ce qui nous concerne. Donc
vous avez des commerciaux genre la Xantia et tout et le mec
tout à fait. Jusqu'à récemment un peu moins maintenant mais parce qu'il y a des B2B aussi online qui se développent tout ça mais il y a des disquaires en fait qui maintenant préfèrent commander sur un outil internet que d'avoir un commercial qui vient le saouler pendant deux heures genre de lui vendre ses drouilles tu veux pas ce disque en fait il peut dire ouais vas-y mais en fait passe pas
non mais après il y a beaucoup de téléphones c'est-à-dire que donc la télévente ça c'est indispensable moi par exemple j'ai fait ce travail là et à l'époque je travaillais dans chez un distributeur qui s'appelle Topler, ce qui existe toujours, mais nous on était très spécialisés dans la French Touch 1.0. Mmh. On avait tous ces labels avec des noms incroyables. Bah on appelait les shops, notamment beaucoup en Angleterre, téléphone, platine, donc on mettait le casque sur le combiné et on jouait. Moi je jouais les disques. Incroyable. Je jouais les disques, donc j'avais une pile, donc on faisait beaucoup d'import aussi. Donc j'avais une pile de disques comme ça, donc je connaissais les gens que j'appelais et je savais que lui, il fallait que je mette la cellule dans le break, etc. Et on passait des heures, mais des heures, en fait, c'était des heures entières à faire écouter des disques par téléphone. Et le mec te disait, des fois, t'entendais pas trop, il disait 15 et en fait, t'as mis 50, toi. Donc, en fait, il a 50 au lieu de 15. Ouais, c'était assez marrant. Mais on faisait comme ça, donc le budget téléphone était énorme. T'appelais en Afrique du Sud, t'appelais en Angleterre, t'appelais aux États-Unis et en fait tu faisais que ça quoi. Mais c'était hyper intéressant. Aujourd'hui ça paraît complètement irréel.
C'est marrant.
Mais là ouais il y avait un truc qui se passait quoi. Donc
pour clôturer la question quand même aussi économique de la rentabilité, de la viabilité du physique aujourd'hui, que ce soit pour les disquaires, que ce soit pour vous. Ça a du sens de maintenir le physique économiquement encore aujourd'hui ?
Oui, il y a des labels qui gagnent encore de l'argent avec ça. Ça, c'est clair. Après, dans l'autre côté, nous aussi, on va des fois mettre le holà à certains labels et artistes, leur dire « Fais pas un vinyle, fais une campagne de marketing digital pour construire ta fanbase. » quoi. Parce qu'en fait, c'est quand même...
Les artistes, ils veulent tout de suite, dès le départ, se dire « Moi, je veux ma sortie en vinyle. »
Il y en a plein qui veulent aussi cet objet. Tu vois, c'est hyper important pour eux, cette finalité. Quoi. Ouais. Mais nous, parfois, ce qui est bon commercialement pour être un peu bizarre, mais on préfère tu vois, privilégier la carrière d'un artiste que de lui dire vas-y, viens fabriquer ses disques chez nous, puis au final, il va en vendre 50 sur 300 et il va en avoir 250 dans son garage, et quand il va déménager, il va avoir le seum, quoi.
Non, mais puis des fois, alors c'est aussi des fois l'engagement du producteur vis-à-vis de l'artiste où il y a une sorte de package dans lequel il y aurait potentiellement le vinyle, et après, comme on disait tout à l'heure, si tu signes un label avec tout ce qui sort, peut-être que le label, lui, il comprend que tout ce qui sort, ça implique, parce qu'il l'a fait une fois, deux fois en vinyle, que tout va être en vinyle. Et c'est là où tu dis, non, ça, t'inquiète, ça, c'est du développement. Ouais. Là, c'est plutôt le digital qui est pertinent. Et donc, justement, le D2C peut servir à ça.
C'est les invités qui font les transitions.
Non, mais tu vois, de sentir un petit peu le potentiel, la fanbase, et après,
Et d'ajuster, du
décliner
coup,
et puis de transformer ça vraiment sur un setup de distribution physique un petit peu plus conséquent. Et je vous invite d'ailleurs, Stéphane en parlera très bien, mais le lien qui se fait maintenant sur Spotify notamment et ouais. sur l'accès au merch,
avec le merch
et l'accès à acheter de la musique physique sur les plateformes de stream. Là, je pense que c'est un peu l'enjeu de demain, et donc ça veut bien dire que c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, et ça dépend.
C'est complémentaire.
Si t'es dans ta bagnole, c'est sûr que c'est plus simple d'écouter Spotify si c'est chez toi.
Mais le disquaire dans tout ça. Vous-même, vous avez eu un magasin d'ailleurs, Big Wax Records, pendant un certain temps.
Ouais.
Il arrive encore à bouffer avec le physique, le disquaire. Si on fait une moyenne, tu vois, généralement.
Ils sont très.
Ça va pas être facile, hein.
Non, mais c'est pas facile. Mais il arrive à bouffer si
il est spé dans un truc.
Ouais, ou s'il développe aussi des choses, parce que ça peut être un lieu de vie, un disquaire. Ça peut être des endroits où tu fais des showcases, donc t'amènes des gens, donc tu vends des disques.
Tu vends de la bière aussi.
Ça peut aussi.
Microbrasserie. Non mais café en grain.
Non mais voilà.
Non mais sans faire.
Non mais c'est vrai.
Non mais sans faire un concept store. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Et tu peux vendre des magazines, je sais pas, je pensais à Audiomat ou des Audimat, pardon,
nous,
des choses comme ça.
Récemment, beaucoup de magasins qu'on a ouverts en distribution là depuis 3 ans ou 4 ans, c'est des magasins un peu hybrides.
Ouais, qui font
des gens qui font café, disquaire, bar, disquaire, libraire, disquaire.
Ouais.
Ils se sont dit non, mais je vais faire plusieurs activités.
Oui, parce que l'activité de disquaire seul. C'est quand même un sacré pari maintenant.
Ouais, mais alors justement là où il y a eu un petit peu un éveil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un disquaire, c'était pas vraiment le cas avant le Covid, confinement, etc. Maintenant ils ont compris qu'il fallait aussi un site internet, il fallait être proactif. Donc c'est.
Et puis il y a des disquaires aussi. Par exemple, moi j'étais allé chez Musique Avenue, où le mec est incroyable là-bas, avec l'équipe de la RTBF là, et ils vendent aussi du matos en fait. Ils vendent des platines, des cellules, des petites feutrines. Je vois. Enfin,
il y a des disquaires qui sont pas à l'aise avec ça. On peut les comprendre, mais c'est vrai que c'est si t'es à Paris, que t'as un gros loyer et que tu fais vraiment qu'une partie du job de disquaire, ça va être compliqué. À Paris, t'as besoin de te diversifier. Tu prends l'exemple de Balade Sonore ou de Grande Zéro. Grande Zéro, ils vendent des meubles aussi. Des platines. Il a un deal avec je sais plus qui, mais il est obligé quelque part. Enfin, obligé. Il a envie de le faire aussi.
Oui, il faut qu'il diversifie un petit peu son.
Mais voilà. Mais après, il y a des disquaires à l'ancienne et qui vont faire parce que. Nous, en l'occurrence, on est sur de la nouveauté. Beaucoup de disquaires, ils travaillent que sur l'occasion. Et là, leur travail, ça va être d'aller dénicher des lots, dénicher des disques trouvés, digués dans un bac, pas cher, mais en fait, il y a une grosse valeur derrière. Donc, voilà, le disquaire, il est. Mais en tout cas, il est présent, beaucoup plus présent sur Internet aujourd'hui qu'il n'a été il y a encore très peu de temps.
J'évoquais Balade Sonore parce que d'ailleurs, je crois que c'est ce soir. Par exemple, il faisait une séance rencontre avec Fakir. En fait, c'est un peu le même modèle d'ailleurs que les libraires, en fait. On sait que c'est des métiers durs. Globalement, c'est des formats qui sont en difficulté et que t'es obligé d'en faire effectivement des lieux un peu différents, complémentaires, des lieux de vie, etc., de rencontres, d'expositions.
Je trouve ça bien, en fait.
Mais c'est ça, c'est.
Ouais. Après, c'est triste parce que quand tu fais un métier depuis 40 ans et devoir te renouveler absolument. Alors que tu fais bien ton métier, ton cœur de métier, tu le fais bien, mais c'est juste que ça suffit plus. C'est difficile, quoi.
Mais le métier maintenant, c'est justement plus que vendre la musique, c'est la faire vivre aussi. Enfin, pour moi, ça fait partie de l'hybridation du truc et l'évolution du métier.
Et comme l'artiste doit finalement être sur les réseaux sociaux, on en fait tous un petit peu plus.
Avec Bovary sur TikTok.
Avec Bovary, ouais.
On en fait tous un petit peu plus qu'avant. Donc, mais on parlait bien de Fakir chez Nowadays, distribué par Big Wax, c'est ça.
Tout à fait.
Bon, voilà, il passait chez Balade Sonore, mais c'est pas un problème, donc.
On est au courant.
Bah, ça tombe bien.
Ah non, mais bien sûr qu'on est au courant.
Il y a le code barre.
Mais c'était pas. Ouais. Non, mais voilà, faut en faire un petit peu plus. Et d'ailleurs, Balade Sonore, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup sur les disques. Ça, c'est important. C'est une compétence aussi d'écrire sur un disque. Lui, il le fait beaucoup. Voilà, ça, c'est intéressant parce que c'est encore. Il transmet quelque chose de puissant. Sur le digital, c'est vrai que il reste plus grand-chose. Tu parlais tout à l'heure de la petite pochette qui ressemble plus qu'à un carré, alors qu'à la base, c'est une super pochette un gaufrage, etc. Ouais. Et puis, il y a encore la musique, heureusement.
Ouais,
maintenant, elle est plus en plus courte.
Maintenant, il n'y a plus de troisième couplet, les morceaux font 2 minutes 30.
C'est terrible.
Je suis attristé.
On reparlera de physique, de vinyle un jour dans DLT. Par exemple, un truc.
Avec plaisir.
On n'a pas le temps là, mais j'aimerais bien aborder la question écologique aussi, par exemple, parce qu'elle est pertinente, je pense, quand même.
Mais
quand
c'est biodégradable.
Du format physique. Ou... Ouais, absolument.
Versus un MP3 dans un data center. Ah!
Mais on fera un,
bah, ouais, parce
un truc spécifique, parce que là, ça rallonge encore, c'est un vrai sujet, etc. Qu'on n'élude pas, mais on prendra le temps dans une émission vraiment consacrée au vinyle ou au format physique de parler de ça, par exemple.
Mais juste rapidement, il y a une conscience quand même, écologique dans l'industrie du disque, évidemment, mais chez les distributeurs. Et nous, voilà, tant qu'on peut consolider, il y a beaucoup de transport dans la distribution. C'est vraiment, c'est une histoire de logistique et de transport et de camions et d'avions, etc. Si on pousse le sujet, des fois, on fait des choix de bateaux. C'est plus long, mais voilà, où on fait des choix de consolidation pour pas faire n'importe quoi et faire des allers-retours. Il y a vraiment cette conscience là qui est
bah oui bien sûr.
Et lui, il faut l'optimisation du coût du transport, donc au final c'est tout bénef pour les radins bien sûr.
C'est mon métier.
Est évoqué Audimat, des gens de qualité qui viendront nous voir dans VLT. Excellent. Guillaume qui regarde régulièrement l'émission.
Ce serait au rendez-vous.
Yes, super. On passe au D2C, Daz.
Ouais.
Stéphane, reviens nous voir.
Let's go.
Grégory, merci beaucoup. On se revoit pour faire coucou de toute façon, pour dire au revoir.
Carrément.
Alors le D2C.
Le D2C, qu'est-ce que c'est? C'est un acronyme déjà, D2C.
Mais oui.
C'est un bon
groupe
terme,
avec 20 cils.
Ça veut dire.
C'est direct to consumer, c'est ça? Ou tout c'est ça, customer ouais. peut-être?
C'est ça, direct to consumer.
Ouais. Tu nous racontes un peu, parce que je disais, c'est le grand mouvement dans la distribution qu'on observe depuis quelques années. En quoi ça consiste?
Bah, c'est dans l'industrie de la musique, c'est souvent traduit par direct to fan. Du coup. Le principe est assez simple. Au final, ça va être c'est justement de réduire au maximum l'intermédiaire dans la commercialisation de merchandising, d'albums, de vinyle, pour justement rémunérer au mieux l'artiste.
Okay.
De fait, si t'enlèves les intermédiaires, donc il a
quand tu parles d'intermédiaires, tu veux dire c'est justement parler. On évoquait la Fnac, on évoquait les disquaires, etc. C'est maintenant.
Voilà.
L'artiste propose directement
à ses fans. Ouais. Voilà, tout simplement.
Mais même le distributeur aussi, c'est un peu c'est enlever le distributeur aussi.
Aussi,
au final, on tire une balle dans le pied. Là,
ça vous fait pas peur?
Bah non, en fait, à la base, c'était un peu l'idée justement avec Greg, c'était se dire les labels passaient beaucoup par Bandcamp pour vendre leurs disques.
Parce que c'est du D2C en fait, Bandcamp.
C'est complètement.
Ouais, c'est un peu eux qu'ont quasiment inventé le truc. Et le modèle, en tout cas, et qu'on l'expliquait, qu'ils l'ont revendiqué, et qu'on crée un peu ce marché finalement.
On rappelle que Bandcamp, c'est une plateforme qui te permet d'acheter de la musique aux artistes, et en fait, les artistes gèrent leur page, et peuvent proposer effectivement en plus du merch et ce genre de.
Ils font tellement tout Bandcamp, c'est-à-dire qu'à la fois tu peux streamer directement dessus, tu peux acheter pour posséder effectivement le jeu.
Tu peux acheter avec un prix qui te dise en MSRP, le prix de base, mais tu peux décider de donner ce que tu veux,
plus, moins.
De toute façon, soyons clairs, c'est un peu la plateforme favorite des artistes de manière générale, Bandcamp. En tout cas, il y a une affection particulière.
On sent
le respect derrière. Il y a les fameux Bandcamp Friday, un truc dans le genre. C'est une plateforme de qualité.
Bah, c'est surtout comme disait François, c'est les pionniers au final.
C'était les premiers à faire ça. Et puis inclure le physique aussi assez rapidement, de rien. Parce que bon, à la base, c'était du digital, c'était que du download.
Avec plusieurs qualités en plus.
Il y avait ce truc-là, pour les gens qui étaient habitués à télécharger aussi. De manière illégale. Ils se sont habitués finalement, je pense, un peu à leur modèle. T'avais tout le IFF et machin. Ouais, il y a toujours ça, hein, d'ailleurs. Il y avait ces labels qui vendaient leur physique sur Bandcamp et qui géraient très très mal la partie logistique. Envoi, perdait de l'argent sur tes frais de port.
Parce que Bandcamp héberge en fait l'interface, etc. Mais ensuite, c'est eux qui doivent gérer eux-mêmes le merch, etc. L'envoyer
dans leur. Tu vas à la poste.
Tu vas à la poste. Okay. Et du coup, nous, on s'est positionné en tant que fabricant et puis en tant que facilitateur, parce qu'aussi le distributeur, c'est aussi un facilitateur. Je pense que nous, on a toujours eu cette envie-là d'avoir ce rôle-là. De permettre au label de consacrer plus de temps à faire son métier qui est de produire des disques. Et c'était dans cette optique là qu'on s'est dit on va les aider à mieux gérer ça. Donc au début on a commencé à gérer des Bandcamp. On se connectait au Bandcamp et moi et Greg on faisait des colis et voilà, on allait à la poste avec notre chariot livrer les disques, mais on a amélioré la rentabilité pour le label. Parce que on avait des frais de port, on savait ce qu'on payait. On achetait en gros des colis pour envoyer, enfin ce genre de choses.
Vous aviez un compte pro quoi, en gros.
Ouais, voilà. Ouais. Et après on s'est dit c'est trop bizarre en fait que les distributeurs soient pas en fait impliqués ou en tout cas prennent pas une place dans le D2C. Donc en fait on est un des rares, voire un des seuls en France à avoir un service D2C intégré à la distribution. C'est un peu un parti pris qu'on a eu assez vite. Et au final, on perd pas cette partie-là. On l'intègre et on l'a, et on,
du coup, on la
développe
quand,
aussi, quoi.
Ouais. Mmh. Vous la valorisez quand vous contractez avec un artiste.
Voilà, on intègre la stratégie D2C, en fait, okay. Dans la stratégie début, de sortie, ouais. Quoi.
Donc, si je comprends bien, Stéphane, vous allez gérer, un site internet. Une boutique en ligne au nom de l'artiste ou au nom du label.
Bien sûr, ouais.
Je crois d'ailleurs vous passez par Shopify si je dis pas de bêtises. Et derrière qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous gérez derrière? Moi je vais dessus, je suis intéressé par un CD avec un t-shirt. C'est vous qui gérez tout derrière? Pour que je reçoive mon t-shirt, mon CD, mon...
Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Mais c'est aussi l'intérêt, comme disait François, de l'avoir intégré dès le début dans notre métier de distributeur, c'est qu'en fait cette partie logistique là, on la maîtrise déjà. Et d'un point de vue logistique, les stocks sont au même endroit. Donc en fait, on peut gérer plusieurs canaux de vente en même temps. Donc oui, si tu passes commande sur le site, effectivement, on va recevoir la commande, on va la traiter. On a des équipes qui sont formées pour faire de l'envoi, pour que ton disque il arrive justement pas plié, ou du moins. Bon après, là, on n'a pas la maîtrise derrière le transporteur, mais en tout cas, on a la maîtrise de l'emballage pour qu'il soit adapté à ce que tu vas commander, que ça soit du vinyle, du CD, du merchandising, tout ça, pour que tu puisses le recevoir, dans les meilleures conditions, dans le meilleur délai, et puis justement un coût de transport négocié, parce que voilà, comme on travaille avec pas mal de labels et qu'on gère beaucoup d'envois, il y a du volume, donc de fait on peut avoir des tarifs négociés.
Okay.
Donc c'est un peu toute cette partie là qu'on va gérer, on va dire logistiquement parlant, quoi. En fait.
Est-ce que cette philosophie un peu de faire sauter les intermédiaires, est-ce qu'elle est surtout portée par des labels et artistes indépendants? Ou est-ce que les majors aussi, en fait, ont fait leur propre D2C, ont intégré les propres catalogues pour des
les
gros
majors,
artistes?
Ils font même des Kickstarter pour rééditer des vinyles qu'ils ont déjà. Mais ça me semble.
Je sais pas, mais je pose les questions.
Bah, on va dire que ça s'est.
Ils se sont mis parce qu'il fallait s'y mettre.
Ils se sont mis parce qu'il fallait s'y mettre. Ouais. C'est vrai que Bandcamp existe depuis le début et s'est très vite développé internationalement dans plusieurs pays. Mais c'est vrai que en France, c'est surtout le Covid qui a accéléré le mouvement.
Okay.
D'un point de vue stratégie de distribution, quoi. C'est-à-dire que même pour un maison disque, ça peut rapporter quand même pas mal d'argent, parce que du coup, il y a pas d'intermédiaire, donc ça reste que l'intermédiaire. Même si le but c'est de réduire au maximum, et au final, l'artiste va toucher plus d'argent, ça c'est certain.
Okay.
Mais la maison disque de fait aussi. Et en fait, ça s'est vite intégré dans des stratégies, parce que avec le Covid, le marché s'est basculé automatiquement sur la vente en ligne vu que les magasins étaient fermés. Et puis également, je pense que c'est aussi par rapport à... tu parlais du Snap, en fait. Ces ventes-là, maintenant, remontent dans les charts. Et c'est vrai que ça a une valeur dans le business qui est assez importante de pouvoir se positionner dans les tops. Ces ventes-là, qui sont souvent des précommandes en plus, vont te permettre d'être bien positionné en première semaine.
D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un peu de polémique sur la comptabilisation via le D2C, parce que l'artiste a un peu la main aussi. Si j'ai bien compris, il a quand même la main sur ce qui est vendu, etc. Il peut faire remonter des chiffres. Ça effraie un peu tout le monde. J'avais l'impression à un moment.
Maintenant, c'est régulé, mais c'est un peu comme à l'époque quand un artiste allait en Fnac et il achetait 14 bacs pour justement faire gonfler les chiffres. C'était un peu le même cas. Ça l'est toujours. Hein.
Une technique mafieuse. Hein.
Tu peux toi aller sur ton propre site t'acheter 12 fois ton vinyle pour que t'aies 12 remontées. Mais en fait, aujourd'hui, maintenant, t'as des restrictions. Okay. Et justement, ces ventes qui sont remontées, elles sont ce qu'on appelle des cappings. En fait, on ne peut pas remonter plus que 5 ventes, en fait, plus 5 éditions par vente.
Ok.
Cinq exemplaires.
Si tu commandes 6 fois le même disque dans ta commande,
on s'arrête à 5.
Ça va être que 5 max.
Ça remontera 5.
Voilà.
Donc, parce que personne ne peut acheter 100 exemplaires.
Voilà. Et... il va juste perdre de l'argent, quoi.
Ouais.
Je prends 100 exemplaires et il n'y en a que 5 qui remontent.
Ouais.
Ah ouais.
Après, c'est considéré considéré comme, en fait, si tu veux, considéré comme un revendeur.
Un achat de gros.
C'est pas ça. De la sortie caisse, comme on pourrait dire.
D'accord. C'est bizarre de passer par le site de l'artiste et d'en prendre ça d'un coup, quoi. En théorie, t'as ton propre canal.
C'est peut-être un artiste un peu indé. On sait jamais.
C'est ça. Mais donc, du coup, ça a pas mal, le marché s'est pas mal développé là-dessus parce que, on a vu que les fans étaient de plus en plus intéressés par ce canal-là. Ça permettait aussi à l'artiste d'avoir une liberté d'expression sur le merchandising et les goodies qu'il peut y avoir autour.
Et justement, la cote-part, moi, c'était la question que je me posais. C'est donc, si tu fais du D2C, évidemment, c'est d'abord pour vendre la musique de l'artiste. Mais est-ce que tu vois la part des goodies, des t-shirts, des stickers, de tout le merch? Tu vois le truc qui évoluait, prendre de plus en plus de place? Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui arrivent sur le site de l'artiste pour n'acheter qu'un t-shirt, pas la musique?
Bien sûr, puisque un artiste en plus peut d'abord sortir son album et puis décliner derrière une série de t-shirts ou de hoodies donc sur des temporalités différentes. Donc un fan peut venir acheter l'album en vinyle et puis après voir dans deux mois après que l'artiste a sorti un t-shirt et en fait il veut l'acheter. Donc la part, elle est assez importante, enfin elle se développe pas mal en tout cas.
Oui, mais il y a même des labels. Donc, des néo-labels qui ont des boutiques où ils vendent que du merch. Ouais. Ils n'ont jamais fait de physique, ils n'ont jamais fait de CD ou de vinyle.
Ouais.
Et ils vendent que du merch, c'est que de l'image, quoi.
Ouais, c'est vraiment. Ouais. Donc, tu peux acheter tous les t-shirts de Nirvana, machin, etc., mais pas les
albums. Pas forcément, c'est plus, tu vois, des artistes vraiment hyper actuels, quoi.
Ah oui,
tu vois,
okay.
Qui n'ont pas passé ce gap de dire, ok, je vais faire un vinyle,
faire
qui coûte beaucoup d'argent.
Physique,
ouais.
Mais
donc,
par contre.
Sur les plateformes, mais ils vendent leur merch.
Se montrer avec son merch.
Ouais.
Son petit hoodie est bien taillé, machin, ça c'est hyper important, quoi, tu vois.
Parce que on voit beaucoup d'exemples de D2C, donc ces magasins au nom d'un label, d'un artiste, etc., en ligne, ce e-commerce, en fait, ces boutiques. T'as beaucoup de packages en général, c'est-à-dire que si tu prends tel vinyle, et t'as le t-shirt avec, etc.
C'est de la vente forcée, ça s'appelle.
Non, mais est-ce que fondamentalement on va sur ce type de service, le D2C, pour vraiment avoir un objet qu'on va pouvoir écouter? Ou est-ce que c'est avant tout une forme de soutien, un truc de collectionneur, un truc de rattachement vraiment à l'artiste?
Je pense que c'est la fanbase. Je pense que ça s'est créé. Le D2C, c'est à ce point-là aussi, c'est que le terme, la core fanbase, tu vois, c'est... On veut la grossir. L'objectif d'un producteur, c'est de la grossir.
Les plus fidèles, les plus investis,
voilà.
C'est ça.
Dans le streaming, c'est ça aussi. Je veux dire, aujourd'hui, la stat qui est regardée en priorité par les plateformes, c'est les stats organiques, c'est-à-dire les gens qui vont aller écouter volontairement un artiste. Et c'est pas via une playlist ou autre. C'est vraiment aller voir ces fans-là. Et je pense que beaucoup de gens aussi envient le modèle de Bandcamp parce que. Sur Bandcamp, c'est des gens qui payent pour de la musique.
Ouais.
Ils achètent de la musique. C'est pas un abonnement, c'est tu payes. Et je pense que D2C, il a pris cette place-là aussi parce que on veut connaître la fanbase, savoir à qui on parle, savoir combien les gens sont prêts à dépenser sur un artiste. Donc, et d'un point de vue statistique, ça a été, les majors aussi sont mis là-dedans parce que c'est hyper intéressant pour eux, valoriser dans leur plan marketing.
Ah oui.
Et puis aussi pour se faire de l'argent.
Non,
bien
mais
sûr.
Même en tant qu'auditeur, t'as toujours été intéressé par avoir un t-shirt à l'effigie de l'album que t'as acheté.
Je me rappelle que dans le rock, c'est une grande culture.
Je me rappelle deuxième album de Bone Thugs and Harmony en 97, où quand tu l'achetais dans les premiers mois, t'avais un t-shirt offert, tu vois. C'est des trucs qui, moi, ça m'avait marqué. Parce que je me dis, ouais, j'ai un t-shirt avec un CD, c'est un truc de ouf, tu vois. Et en fait, je me dis, j'aurais bien aimé avoir des t-shirts avec des CD plus régulièrement, tu vois, quitte à payer un petit peu plus, parce que c'est la musique que t'écoutes, tu la revendiques, tu vois, ça fait partie de ton identité, donc
et puis
c'est super important.
Ça s'est vachement développé, en plus, avec le côté mode, au final, parce que maintenant, on a beaucoup d'artistes qui sont très affiliés à la mode, qui font des collabs avec des marques. Et donc, le textile a toujours eu une place et aura toujours une place, en fait, dans le projet global d'un artiste. Et je pense que, comme disait François, c'est un bon moyen aussi d'engager une fanbase qui va avoir cette démarche-là de t'acheter du textile, qui va le porter fièrement et qui va s'identifier à ton projet. Et en fait, ça participe à tout ça, quoi.
De toute façon, à partir du moment où il y avait des t-shirts Metallica chez H&M, c'est que c'était
acté.
Attention, critique de boomer ou pas?
Vas-y.
Non, toi?
Ah non, 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 non.
Moi, je suis ravi que des gens puissent porter des t-shirts de groupe dont ils savent même pas ce que c'est qu'ils font comme musique.
Non, 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 ça me dérange pas, ça. Je prends toujours rien à foutre.
Le t-shirt de l'hygiène, c'est un grand classique. Ouais,
il y a l'enjeu écologique. D'ailleurs, il y a un article qui est sorti, là, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, sur Libé.
Ouais.
Sur, en fait, l'impact écologique de ces collections de merch. Et voilà, il y a quelques artistes qui parlent, dont l'équipe derrière l'Homme Pâle, mais aussi Flavien Berger ou Fakir. Distribué par Pigvox. mais comment, ouais, qu'ils disent, en fait, genre, j'ai fait du merch, et en fait, pour ma tournée, on a fait 200 t-shirts, 300 pulls, et en fait, à la fin, il restait 90% du stock, et ils ont trop le seum, quoi.
Ah ouais?
Ils se disent, franchement, c'est du gaspillage, et en fait, on revient. Dans le rap, je pense que c'est moins le cas, et puis même eux, ils ont pris très vite le pas de la qualité. Ouais. Et des produits assez chers, donc c'est des choses qui sont portées beaucoup.
Mais c'est peut-être aussi l'engagement de l'audience rap, par exemple. Moi, je sais que Little Brother, ça fait 20 ans, là, il fêtait la sortie de The Listening de 2003, donc là, ils ont refait une tournée. Et apparemment, le stand de merch, il s'est fait cartonner, quoi. Les mecs, au bout de 10 minutes, il n'y avait plus rien, tu vois. Donc, il y a des gens qui sont en attente.
Sur le rap, c'est le textile, c'est dans la culture du rap.
Mais pas que sur des trucs avec des collabs avec des marques.
Ouais, bien sûr.
Même sur un t-shirt avec un print à la con. Ça part, en fait. Donc, je sais pas si c'est ce côté de représentation.
Mais ça dépend des genres musicaux, hein, franchement, clairement.
Je pense que c'est pas déclinable.
Il y a des artistes qui, en fait, ont fait parce qu'il fallait en faire, je pense. Parce que c'était un truc à montrer, de dire, OK, en fait, je fais aussi du merch. Et puis c'est aussi dans le cycle de vie d'un disque, c'est aussi une prise de parole de dire OK, voilà mon merch est dispo, et qui se sont rendu compte que en fait voilà, ça valait pas le coup, quoi. Ouais. Et puis voilà, quand tu sais que l'industrie du textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde,
et
faire un t-shirt, ça coûte beaucoup d'énergie, et ils se sont dit vas-y, mais en fait on va peut-être le faire différemment. On a fait
avec
sur l'Impératrice.
Ouais.
Sur l'Impératrice, ils avaient fait un truc assez cool.
Sur du t-shirt de seconde main. Donc assez intéressant, parce que en gros, ils proposaient des t-shirts modèle unique parce que c'est de la seconde main. Mm-hmm. Et donc en fait, t'avais des tonalités de couleurs. Donc t'achètes un produit vraiment pour soutenir l'artiste, parce que tu sais pas vraiment ce que tu vas recevoir, ni vraiment quel sizing tu vas avoir, parce que dans le lot, t'as des tailles US, t'as des tailles euro, enfin, tu sais pas trop. Mais la démarche est bonne, et je pense qu'à ce niveau-là, surtout au niveau de l'écologie, nous, on essaie aussi vachement de pousser, et c'est aussi le but du D2C qui te permet de faire ça, c'est de faire de la précommande, parce qu'en fait,
tu produis que ce dont t'as besoin.
Voilà, exactement, et t'évites de surproduire, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que tu fais une préco et tu peut derrière voir la tendance que tu vas avoir, fabriquer en fonction, prendre une petite marge pour la tournée, mais du coup ne pas arriver avec un tourbus rempli de cartons de merch et qu'en fait tu vendras pas, quoi.
Pour conclure, juste avant la conclusion, ça c'est déjà le quotidien, le D2C, c'est déjà aujourd'hui. Demain, c'est quoi, à votre avis? C'est encore du D2C plus poussé? Est-ce qu'il y a déjà de nouvelles formes qui semblent apparaître aujourd'hui? Le futur de la distribution, même, de manière générale, c'est quoi pour vous?
Un concert clandestin?
C'est la K-pop, les gars.
Ouais. Non, mais ça,
c'est le modèle à suivre un peu, s'il passe.
Ça s'est vu dans les modèles, là, ça commence à venir. Ça va être le NFT et toutes ces choses-là, quoi.
C'est pas en train de partir, justement. J'étais en train de me féliciter.
Ça,
il y a eu un petit
effet de mode. Après, on le sait que ça, du point de vue numérique, on tend vers ce genre de choses.
Ouais. Donc c'est en fait plus NFT ou autre chose, mais des trucs un peu uniques de collection.
Oui, de toute façon, effectivement, vous en parliez tout à l'heure, le D2C, c'est t'as aussi le côté collection et derrière
resell et
resell, ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu de toute façon sur tous les marchés, hein, que ce soit la sneakers ou ce que tu veux.
Oui, c'est à dire qu'il y a des gens qui achètent pour revendre beaucoup plus cher.
Exactement. Dès qu'ils spéculent à mort, c'est ça, ouais. Et malheureusement, même dans l'art, ça, il y a aussi ce phénomène là. Mais non, les tendances, oui, moi je vois ça, parce que effectivement, il y a eu cette petite hype sur le NFT. Mmh. Je pense que on va quand même y aller à un moment donné, ou sous une autre forme, mais ce niveau-là, je pense.
Après, le vrai futur de la distrib, je pense que c'est sur le streaming, et c'est sur le modèle de rémunération du streaming. Je pense que c'est le principal enjeu aujourd'hui dans l'industrie du disque, qui est assez injuste aujourd'hui.
Pas mal de temps maintenant.
Oui, et puis là, de récemment, en fait, les majors, et dont le big boss de Universal, on a vu un article il y a pas très longtemps.
C'est toujours le même? Non. Là, c'est qui Big Boss? C'est plus Pascal Enward?
Non, là, c'est le chairman du groupe.
Eux aussi se rendent compte qu'en fait, le modèle est délirant et puis que les plateformes devraient aussi arrêter de tout prendre, de tout référencer,
Parce qu'il y a des dérives sur du fake stream, enfin sur les fermes stream, ça, tout ça, ouais. Et ce qui fait que le modèle actuel de rémunération, il est pas bon parce que. Comme c'est
parce qu'il y a de la triche.
Il y a de la triche et en fait c'est un gâteau qui est partagé en fonction du prorata. Donc en fait si dedans
user centric pourrait être une solution, mais qui va pas révolutionner non plus les choses à mon avis.
Le chairman de Universal il se dit on va peut-être pas mettre tout notre catalogue disponible sur la plateforme sur les plateformes.
Mais en tout cas lui dit plutôt il faut absolument repenser le modèle.
Ouais.
Et eux vont être même. Eux, en fait, se rendent compte que ça pourrait être plus intéressant pour eux. Je pense que s'ils le disent, c'est que c'est le cas.
Bien sûr.
Mais dans le fond, pour le bien commun, ils se rendent compte qu'en fait, ils vont droit dans le mur, quoi.
Ouais.
Mmh. Après, nous, on n'est pas les mieux placés pour parler de ça. Je pense que vous pouvez aussi, je pense que c'est hyper intéressant. Et nous, on serait, je pense, très intéressés d'avoir des discussions, comme vous pouvez le proposer, assez longues sur le sujet. Parce que c'est
je pense que c'est vraiment d'ailleurs un épisode il me semble là-dessus sur le modèle de rémunération.
Dans DLT, on n'a pas vraiment parlé de rémunération.
On l'a évoqué.
C'était dans quel épisode? Parce que moi, j'ai fait effectivement des vidéos pour monter le son sur la question de la rémunération. On avait fait un DLT sur la rémunération.
Je pense que oui.
J'ai plus. Tu t'en rappellerais
peut-être. Quand on parlait stream, etc.
Ouais.
C'est terrible. Je sais plus tous les épisodes. Ce qu'on a fait. 42, ça commence à être beaucoup.
Mais en tout cas, on voit que ça revient, les questions reviennent beaucoup autour de ça.
Mmh. On avait fait un épisode avec Sofian Fanen, où on avait certainement parlé effectivement de ces questions.
C'est vrai,
t'étais pas encore là, effectivement. Mais très bon épisode. Mais il aurait été encore mieux avec toi.
Ouais.
Non, coucou Chrono Musique aussi, c'était très bien.
T'as préféré Chrono.
Vous êtes trois, je sais pas comment on va faire pour les recommandations. Vous le savez, la tradition dans DLT, c'est terminé avec les recommandations musicales. Et j'aimerais même poser une question, un peu provoque. Mais j'aimerais bien aussi l'avis de Greg, alors je sais pas comment on peut faire, ou peut-être que vous allez vous relayer, un truc comme ça. Oui, à la limite, viens si tu veux un peu te mettre juste à côté. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup, mine de rien, de business. Le business, parfois, ça peut un peu éclipser l'art, mine de rien. Vous bossez dans la musique, les gars? Est-ce que ça vous arrive parfois de prendre un peu de recul et de vous dire les questions logistiques, notre activité, notre travail, le fait d'être professionnel dans la musique, de penser business, etc. Est-ce que des fois, on fait pas un peu fausse route? Est-ce que des fois, on s'éloigne pas un peu de la musique, de l'art? Est-ce que parfois, il y a des trucs qui collent pas complètement dans tout ça?
Ah ouais, bien sûr. Enfin, je pense qu'on a tous cette frustration-là plusieurs fois. Où tu te dis, t'as l'impression d'écouter moins de musique. Au final, t'en vends, mais t'en écoutes plus vraiment. Et tu te déconnectes. Enfin, moi, je pense que j'écoutais beaucoup plus de musique et j'étais beaucoup plus investi dans mon écoute avant que je ne le suis aujourd'hui. Après, ça veut pas dire que j'écoute quand même beaucoup de musique. Mais je vais moins à fond dans un genre, aller diguer. Voilà, je suis un peu moins là-dedans. Mais bon, on essaie quand même d'être toujours toujours quand même rester passionné, et on l'est toujours évidemment, et puis savoir aussi connaître les tendances et puis sortir aussi ce qu'on kiffe, mine de rien. On essaye de faire ça aussi, quoi.
C'est surtout ça, en fait. Tu parlais tout à l'heure de couleur de catalogue. C'est aussi d'avoir la liberté de kiffer, de distribuer des disques qu'on aime, des genres qu'on aime, des artistes qu'on aime. Et d'avoir cette liberté-là, c'est important de la garder, je pense, et ne pas forcément penser que business et se dire « Ok, on va prendre tel ou tel artiste parce qu'on sait que ça va se vendre. » Et je pense que ça maintient un peu la flamme aussi, le côté passion... justement de l'envie de défendre en fait de la musique, tout simplement, parce que je pense que c'est le truc, c'est ce qui nous anime de base, en fait, c'est de défendre des artistes, de la musique, et c'est développer de mettre notre pierre à l'édifice pour développer leur carrière, quoi.
Toi Greg, tu peux prendre éventuellement un micro. Fondateur, ça fait des années que t'es dans ce business de la musique. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit là j'ai fait un choix, peut-être que c'était une erreur, ou j'ai plus pensé à l'aspect financier qu'à ce qui convenait à cet artiste artistiquement?
Non, pas vraiment. En fait, c'est vrai que la construction de la boîte, elle s'est très rarement fait sur des critères financiers. Ouais. Nous, on a la chance aussi de continuer à avoir des artistes qui passent chez nous, signer des disques, discuter, parler de musique. C'était plus un... La construction, c'est plus... je pense que je rejoins l'idée de François sur le développement, faciliter l'accès à la musique. C'est pas si c'était des critères financiers, on serait peut-être dans un développement différent. On a fait beaucoup de choses vraiment avec François le disait tout à l'heure, enfin on a scotché des colis, on s'est structuré, mais on s'est structuré vraiment par l'envie de créer quelque chose dans l'industrie et pas par l'appât du gain. Et je le dis sincèrement, évidemment, enfin, il faut, encore une fois, faut faire tourner une boîte, faut payer des gens. Donc, évidemment, on fait des choix. Mais c'est pas le moteur. C'est pas du tout le moteur. Donc, si on faisait que se planter, on serait pas là. mais on fait pas que signer ou que refuser en fonction d'un indice. D'ailleurs, y a pas vraiment de... le reporting, les business plans, c'est pas trop notre langage. On fait ce qu'il faut pour maintenir tout ce bordel, mais on le fait pour la musique.
C'est super. Beau. Ouais, merci les gars, en tout cas, d'être venus discuter assez librement. D'ailleurs, vous avez parlé aussi de vos concurrents, entre guillemets, etc. Donc, c'était un vrai plaisir.
On n'a pas les noms des artistes qu'on flopait, hein, mais.
C'est vrai.
Pour un prochain épisode.
Comment on fait Daz pour les recos? Est-ce que vous mettez d'accord? Est-ce qu'on passe trois morceaux rapidement pour eux? Qu'est-ce qu'on fait?
Je sais pas quoi faire. On pourrait dire, c'est vos recos à vous et nous, on n'en donne pas.
Eh ben, tu sais quoi? Allez. On leur laisse champ libre. Ils choisissent trois morceaux et nous, on ferme notre gueule.
Exactement.
Très bien. Allez, est-ce que vous avez déjà envisagé un truc que vous avez envie de passer, de faire découvrir à nos auditeurs, à nos spectateurs?
Ce que j'écoute beaucoup en ce moment, et d'ailleurs, je vais le voir vendredi, c'est Tamino.
Ok.
Un artiste belge, qui fait de la folk très mélancolique.
Ouais.
Avec beaucoup de talent. Et, je dirais un titre Habibi, par exemple.
Allez. Eh ben, Tamino, Habibi. Et c'est parti.
5 minutes, waouh!
Ouais.
Incroyable! Something hides in every night, brings desire from the deep. And with it comes a burning light. Keep us from being. Ça a chialé en concert.
Je me suis permis un peu d'avancer.
Ça va être un concert.
Désolé, t'entends pas.
Ça change de la disco à des
terres. C'est très joli, c'est touchant comme musique, effectivement.
Ah, ça va chialer beaucoup, là.
Est-ce que tu veux prendre la suite, François? Après ça, c'est un truc plus.
Un petit coup de peps.
Yes, ouais, comme je dis au début, j'écoute pas mal un artiste qui s'appelle Les Louanges, qui est québécois.
Les Louanges.
Est-ce que je son dernier album, c'est Crash.
Ok.
Et on peut se mettre le deuxième morceau.
Ok, qui est Chaussée.
Oui, exactement.
C'est bien
la
ça.
La Chaussée.
Chaussée, Les Louanges. Et les noms sont étonnants. Je suis curieux de découvrir musicalement cette musique. Ah, Greg, il va écouter. Allez, c'est parti. Ah mince.
Le lait.
On sent sur la chaussée.
Très cool aussi.
Sympa, hein.
Les Louanges, Chaussée, c'est frais.
Sympa
c'est
la
frais,
gang.
Exactement. Ouais. C'est frais. C'est québécois, c'est frais.
Bon, et on termine. Donc Les Louanges, c'était le morceau Chaussée sur l'album Crash 2022. On termine avec Greg. Est-ce que t'as une idée d'un morceau que t'as envie d'écouter?
Une idée, du coup, vous êtes vraiment dans la nouveauté. Moi, je vais choisir un artiste dans ce cas-là qui va pas faire un concert la semaine prochaine. Bah, je vais reprendre l'idée des influences un peu disco.
Ouais.
Je dirais Carly Simon, par exemple.
Okay.
Why.
Toujours en rotation à la maison, hein, je le précise.
Eh bien, cherche le vinyle, d'ailleurs. Carly Simon.
Ouais, je l'ai.
Why.
C'est vrai.
Ah, et on écoute ça.
Repris par le Tribe Called Quest.
C'est vrai, je n'étais pas en deux comptes.
Benita Apple Bomb. En partie, parce qu'il y a 5 samples, mais.
Daz, on avait dit en parler plus
oui,
sur
pardon,
les
rencontres
en
France. Mais
après, c'est pas grave, on peut en dire après.
J'ai eu l'illumination.
Bon, très cool, Carly Simon, Why.
Why.
Merci, là on a 3 super morceaux. J'espère que ça plaira à nos auditeurs.
Ils n'ont pas le choix.
On remercie, bon, on vous remercie déjà, encore une fois.
Ouais, merci à vous.
Super, c'était super intéressant, c'était cool. On a appris plein de trucs.
Ouais.
J'espère que ça passionnera
merci
les gens.
Merci à vous.
Ben, c'était vraiment un grand, grand plaisir. Merci évidemment à toute l'équipe technique, Sam Flav ce soir, la bouclette,
merci,
François pour le montage évidemment, l'autre François, double François, merci au François, on vous aime les François. Daz, merci aussi.
Oui. Sur Thoman.
Mais bien entendu, c'est ce qu'on aime le plus. C'est ce qu'on aime le plus, Thoman, parce qu'il nous paie.
Eh oui, merci. Merci Salman, c'était un plaisir comme d'habitude.
C'était trop bien. On se retrouve évidemment dans 15 jours. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager auprès de vos amis, à dire que c'est trop bien, à dire que DLT est le meilleur podcast du monde, parce que c'est vrai.
Ça se discute.
Non, c'est pas vrai, on le sait. Mais je suis
ok.
Ciao.
À plus.